Bonjour, je suis Steve.
Et moi, je suis toujours Monsieur Nebunny.
Et vous écoutez Comic City. C'est le 33e épisode de notre podcast, et cette fois-ci au sommaire, on a du kiosque et de la librairie. Comme on a dit, ce serait une nouvelle formule un tout petit peu plus courte, puisque un peu moins de temps pour lire toutes les parutions, donc on a coupé quelques kiosques. Donc ce mois-ci, par exemple, on ne traiterons pas ni Icons, ni Wolverine, mais...
Que j'ai lu et qui sont pas essentiels, on va dire.
Voilà. Donc on a bien fait de pas les traiter. Et puis bah on va faire un petit peu de librairie, puisqu'on a de la librairie qui est sortie en début de mois cette fois-ci, ce qui n'est pas le cas tous les mois. Donc puisque c'est sorti maintenant, autant en parler maintenant, on aura un programme assez chargé pour celui de fin de mois de toute façon. Donc bah, malheureusement c'est. Même la librairie c'est que du Marvel. Bon, à l'exception de Kick-Ass où c'est du Icon, mais c'est un label Marvel, quoi. Donc ça reste encore une fois un podcast presque exclusivement Marvel, quoi, malheureusement.
Et ouais.
Mais les dates de sortie sont de telle manière qu'on ne peut pas faire autrement, puisque ce qu'on aura vraiment en autre éditeur dans le prochain, ce sera No Hero, mais ça sort le 15, donc vu qu'on enregistre le 11, on est coincé. Voilà. Bon, bref, après cette petite présentation, on va passer comme d'habitude aux news. Et les news, cette fois-ci, c'est toi qui commences avec des infos sur le Comic-Con français.
Voilà, le Comic-Con français. Alors, vous savez que c'est la deuxième édition du Comic-Con cette année en France. Ça a lieu durant le Japan Expo, c'est du 1er au 4 juillet prochain. Et il y a eu un certain nombre de news de personnalités annoncées au Comic-Con cette année, dernièrement. Et les deux gros noms, en fait, nouveaux annoncés au Comic-Con, c'est Geoff Jones.
Hurrah !
Voilà, Steve est content.
Ça vient du fond du cœur, mais je suis dégoûté parce que je peux pas y aller, donc voilà.
Ouais, en plus, bah oui, et moi je ne sais pas si je pourrais cette année en plus. Donc Geoff Jones sera là ou pas, puisque voilà, ça mérite d'être confirmé. Ça a été annoncé il y a une dizaine de jours. Donc voilà, à voir s'il se maintient. Et Carlos Pacheco aussi devrait être là.
Donc, moi qui suis son tweet à Geoff Jones, j'ai malheureusement pas regardé s'il en parlait ou pas. Mais en tout cas dans ces derniers trucs j'en ai pas vu, mais il faudrait que je remonte un peu plus dans les anciens posts, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc j'essaierai de voir si jamais il l'annonce sur Twitter de son côté pour une petite confirmation de sa part. En tout cas
Geoff Jones, donc Green Lantern, Teen Titan, puis plein d'autres choses depuis des années chez DC. Flash. C'est le scénariste DC, on va dire.
Oui, voilà. Et puis, bah, c'est surtout maintenant le Chief Creative Officer.
En plus, bien sûr. Voilà. Carlos Pacheco, donc lui, bah, c'est le dessinateur d'Ultimate Comics Avengers Volume.
Galère avec le nom, vas-y.
Vous voyez de qui je parle, voilà. Il a fait d'autres choses avant. Il a fait Avengers Forever, par exemple, dans le temps. Et donc voilà. Donc c'est vraiment les deux gros noms récemment ajoutés à la liste de noms déjà. Non moins connu, puisqu'il y aura Jeff Loeb, normalement.
Ouais.
Il y aura Mark Brook, Jim Mahfood, Michael Dolston, Lenil Francis Yu de Secret Invasion, Gabriel Delotto aussi, CB Sebulski, Pascal Ferry, Frank Quietly aussi qui devrait être là, et la star des stars, le fin, la cerise sur le gâteau, c'est quand même Phil Bryans, notre Phil Bryans national.
Ouais, voilà. On pourra enfin le voir. Enfin, vous pourrez, puisque moi, je pas de chance, je travaille le dimanche et tout.
Si j'y vais, je prendrai quelques petites photos dédicacées pour toi.
Voilà, donc pas de jour de repos, malheureusement, la journée du Comic-Con. Pas possibilité de poser des congés, donc voilà, je suis coincé. Sympa. J'ai encore les boules, parce que c'est très récent que je l'ai appris, donc j'ai un petit peu la boule en travers de la gorge. C'est pas grave, tant pis, je pourrais pas rencontrer Geoff Jones.
Bon, alors Steve ne pourra pas les rencontrer, mais vous tous, voilà, les gens que vous pourrez a priori rencontrer au Comic-Con du 1er au 4 juillet.
Sans oublier tout le casting complet de Highlander.
Ah oui, non, bien sûr, il y aura d'autres choses, hein. Il n'y aura pas que les stars des comics.
Avec quand même, chose que je précise parce que je trouve ça totalement scandaleux,
vas-y.
Des dédicaces payantes de la part du casting d'Highlander. Parce que je trouve déjà, ce sont des gens qui sont honnêtement ridicules. Hein, Adrian Paul, faut pas déconner. Et en plus, ils font payer leurs dédicaces. Donc, faut peut-être arrêter, quoi. Ils font peut-être payer les dédicaces aux États-Unis, mais quand on est en France, on est dans un pays où les dédicaces sont gratuites. quand on vient dans un pays, on se met à la page. C'est le minimum.
Oui.
Donc,
alors,
je trouve ça totalement aberrant. Ça
je ne sais pas du tout si les dédicaces seront gratuites en ce qui concerne les autres Jeff Lobb, etc. Quoi.
Bah, préparer les portefeuilles parce que bah, oui. On ne sait jamais. C'est un truc qui me révulse hein, personnellement. Donc, d'où mon petit coup de gueule. Voilà.
Voilà. Mais voilà. On ne sait pas. On ne sait pas si ce sera gratuit, pas gratuit. L'an dernier, j'en sais rien puisque je n'étais pas là l'an dernier et puis il paraît que c'était pas terrible. Donc, bon. En tout cas, voilà. Il y a du beau monde. On enchaîne.
On passe à une deuxième news. IDW a fait un partenariat avec Jeff Smith pour publier sur PSP des comics digitaux de Bone et sa dernière série en date, Russell. Jeff Smith publiait un petit peu en indépendant, au début en indépendant, ensuite il est passé chez Image pour Bone, et puis ensuite il était de nouveau en indépendant, si je me souviens bien. Donc là, IDW a réussi ce partenariat, et... IDW est quand même la compagnie qui se bouge le plus pour promouvoir les comics digitaux. Ils sont autant sur l'iPhone que sur l'iPad. Ils publient pour les deux plateformes. Ils publient maintenant sur PSP. Ils publiaient déjà des comics sur PSP, mais bon, là, avec l'ajout de Bone et des séries de Jeff Smith, c'est quand même un gros nom qui s'ajoute. Mm-hmm. Ils prévoient de sortir aussi, puisque c'est pas encore disponible sur Android, mais d'ici l'été, ça devrait arriver sur Android. Alors, je sais pas si tout sera disponible en France, en tout cas avec les plateformes françaises. Je pense que oui, puisque généralement, les apps, c'est plutôt internationalisé. C'est bien d'avoir des gens qui se bougent comme ça. De pouvoir bouger. Alors, généralement, les comics d'IDW sont disponibles un mois après la sortie papier, en digital.
D'accord.
Donc c'est vraiment très très proche. Quand on voit par exemple ce que fait Marvel sur l'iPad, ils sortent vraiment des vieux numéros, puisqu'ils les améliorent pour pouvoir les lire sur iPad avec un cheminement automatique. Ce qui est plutôt bien fait hein, d'ailleurs. Et il y a entre 20 et 50 comics à peu près ajoutés par semaine. Donc le catalogue monte. Les prix sont toujours d'$1,99 le numéro, ce que je trouve encore un petit peu cher pour du digital, sachant que certains numéros étaient sortis à $2,99 à l'époque. Pour moi, c'est cher, je trouve $1,99 pour un truc totalement dématérialisé.
Oui.
Qu'on peut en plus pas partager d'un iPad à un autre ou d'un iPhone à un autre. Donc voilà, pour quelque chose qui est on n'a pas l'objet entre les mains. Ok, on a le comic qui nous appartient, mais on peut pas le prêter à un ami ou quoi que ce soit. On peut pas lui dire tiens, j'ai acheté ça, je te le passe et puis tu le télécharges de mon iPad ou mon iPhone ou n'importe quelle autre plateforme. Et puis tu lis, puis si ça t'intéresse, voilà, tu peux te les acheter. Non, ça c'est pas possible. On peut pas prêter à un autre. Et que ce soit $1,99 pour quelque chose qu'on peut pas vraiment faire quoi que ce soit avec, je trouve ça encore un peu cher. Pour moi, ça aurait beaucoup plus de succès à 99 cents. Pièce.
D'accord. Non mais enfin bon, en tout cas c'est bien de s'intéresser à cette nouvelle, on va dire une nouvelle mode hein, peut-être puisque.
Pour moi c'est l'avenir. Parce que à long terme les comics arrêteront d'être publiés sous format papier. On aura des TPB en format papier, mais les comics seront que digitaux. Alors ce sera sûrement pas ni le mois prochain, ni l'année prochaine, ni peut-être même dans 2 ans, mais d'ici 4-5 ans, il y a de fortes chances qu'on n'ait plus de papier.
C'est comme il y a des gens, hein, dit-on, qui font des reviews en podcast, rends-toi compte, Steve. Et ça, je pense que c'est l'avenir aussi. Tu vois, bientôt, il n'y aura plus de gens qui font des reviews écrites sur les forums, il n'y aura que du podcast. Bon. Faudra qu'on retrouve les gens qui ont eu cette idée la première fois. En français, hein, j'entends. Ouais.
Tout sera disponible. Apparemment, d'après ce que j'avais lu, Marvel devrait même sortir un annual d'Iron Man. Je crois que c'est prévu pour cet été, en même temps et en papier et sur les plateformes digitales. Ce qui est quand même une avancée de pouvoir avoir les deux disponibles le même jour.
D'accord, ok.
Donc c'est la preuve que Marvel a vraiment pris le train en marche. Reste encore que DC, qui n'est disponible sur aucune plateforme.
D'accord.
DC n'a pas encore fait l'étape du digital. Et c'est vraiment dommage parce que DC a de plus en plus un très très bon catalogue. Notamment face à son concurrent. Bon, après, ça dépend des goûts, mais c'est vrai que toi aussi, je pense actuellement, tu as tendance à plus te tourner vers DC que vers Marvel.
Oui, un petit peu tout de même.
Et pour pouvoir tester des séries à pas très cher, le digital, c'est peut-être pas trop mal. Parce qu'on n'engage qu'un $1,99, c'est toujours mieux que $3 ou $4,99 pour certains numéros.
Ouais.
Donc voilà.
Bah voilà, très belle conclusion.
Sur ce, on va passer au bloc ciné. Si on peut appeler ça comme ça. D'une news pour le casting de Captain America.
Donc, le casting de Captain America qui s'enrichit de jour en jour et dernièrement a été annoncé au casting Neil McDonough, qui a été vu dans Band of Brothers, hein, c'est ça Steve ?
Je crois, ouais, ça c'est une série que j'ai pas vue. Il a été vu plus régulièrement en France dans NIH, Alerte Médicale, il passait pas mal de fois sur M6, le blond peroxydé là. On l'a vu passer au casting de Desperate Housewives aussi. Il a fait pas mal de séries et de quelques films. C'est quelqu'un qui a pas forcément une très très bonne réputation puisque il est très croyant et il s'était fait virer d'une série l'année dernière avant même que la série commence parce qu'il avait refusé d'embrasser une partenaire à l'écran et donc, du coup il l'avait viré de la série.
En attendant là, il doit jouer le rôle de Dum Dum Dugan, donc je sais pas ce que ça va donner.
Donc Dum Dum sera dans Captain America.
Alors est-ce qu'il aura son chapeau melon ou pas? C'est la grande question quand même.
Bah ce qui m'étonne c'est que Dum Dum est quand même roux. On le voit surtout à la moustache puisque c'est principalement comme ça qu'on voit parce qu'on le voit rarement sans son chapeau. Mais il est roux alors que lui est blond peroxydé donc.
Voilà, il va falloir qu'il devienne roux et peut-être qu'ils vont le virer puisqu'il va peut-être pas vouloir.
S'il veut pas se teindre les cheveux suite à sa religion, on sait jamais.
Voilà. Et sinon toi t'en as un autre.
Oui, Stanley Tucci qu'on a pu voir dans Le Diable s'habille en Prada ou dans Slevin.
D'accord.
Qui devrait être Abraham Ersinke, le professeur qui avait développer le sérum Captain America.
J'ai toujours cru que c'était Erskine ou un truc dans le genre, le professeur. Bah, Ersinke, tu dis ?
Ersinke à l'allemande, quoi.
Ah oui, oui. Ersinke, oui, d'accord. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, vu la photo, oui, ça peut le faire, lui, par contre.
Ouais, c'est vrai. Ça va. Puis bon, c'est quand même un bon acteur, donc.
En plus.
Voilà. Sinon, autre série pour dériver des comics, Walking Dead. L'adaptation qui est un petit peu la chose que l'on attend avec impatience.
Ouais, la grosse série aussi la fin de l'année.
Ouais, on a pu voir la première photo des zombies.
Très bien fait.
Ouais, c'est très très bien rendu à l'écran. Mm-hmm. Et récemment, AMC, donc la chaîne qui développe la série et sur laquelle elle sera diffusée, a mis en ligne sur leur site une vidéo où ils montrent un petit peu la préparation des zombies. Et c'est en fait, ils ont fait ce qu'ils appellent une zombie school, où les gens apprennent à se déplacer un petit peu en zombie pour être vraiment crédibles à la caméra, avant d'avoir le maquillage. Parce que c'est ce qu'ils expliquent, en fait. La vidéo dure 3 minutes, on a un petit peu tout le monde qui parle, on a autant celle qui s'occupe du casting, que le réalisateur Frank Darabont, que le responsable des effets ses effets spéciaux des maquillages.
Ouais.
Et il disait que bon, c'est pas la première fois qu'il fait des films de zombies. Mais généralement, il passe du temps pour les maquillages, etc. Et une fois à l'écran, les personnes sont pas forcément très crédibles en zombie parce qu'elles se déplacent pas forcément bien. Et donc là, du coup, ils ont pris vraiment du temps et ils ont vraiment insisté sur les déplacements, sur la façon dont les zombies bougent pour que ce soit le plus crédible possible à l'écran avant de passer à l'étape maquillage réellement, de manière à avoir quelque chose de vraiment bien réglé à l'écran sans perdre de temps.
D'accord, donc en fait, en gros, tu t'apprends à te comporter en bon zombie.
Voilà, mais ce qui est bien, c'est ce qui montre qu'il vraiment il soigne le projet au maximum.
Ah oui, non, ça c'est clair, on peut pas leur reprocher.
Donc, au cas où vous le sauriez pas encore, on rappelle, ce sera une série en 6 épisodes, qui sera une première saison renouvelable si elle marche bien.
Donc, eh bien, on l'espère.
On l'espère, ouais. Malheureusement, comme c'est une chaîne du câble, il y aura déjà une audience un peu plus confidentielle que si c'était une chaîne grand public, comme la Fox ou CBS et compagnie.
Puis il y a des chances qu'en France ce soit diffusé sur Canal+.
Oh bah, il y a de fortes chances qu'ils ont la majeure partie, voire peut-être même toutes les séries de AMC, puisque c'est eux qui diffusent Mad Men, ils ont diffusé Le Prisonnier dernièrement, donc voilà, AMC n'a pas fait beaucoup de séries jusqu'à présent. Donc voilà, bon, il y a de fortes chances que ce soit sur Canal+. On verra bien.
Ok.
L'avantage c'est que si c'est vraiment sur Canal+, on devrait pas attendre trop longtemps avant de pouvoir l'avoir, puisqu'ils les passent vraiment très très proche de la date de diffusion américaine. Le Prisonnier était passé, je crois, 2 ou 3 mois après la diffusion américaine, donc c'est vraiment rapide. La Desperate Housewives, par exemple, va se terminer d'ici pas longtemps sur Canal+, alors que la série a terminé il y a 2 semaines aux États-Unis.
D'accord.
Okay. Donc c'est vraiment très proche. Et là, il y a un gros effort de fait en France, de plus en plus, pour essayer de pas avoir trop de décalage.
Ah bah Lost, par exemple, sur TF1.
Ouais. Ouais, enfin, à 1 heure, pas possible.
Ah oui, oui, oui. Mais en même temps, bon, tant pis. Hein.
Au moins, c'est assez proche, donc c'est bien, c'est bien.
Oui.
Ça évite d'avoir de gros décalages et qu'il y ait un trop gros téléchargement illégal et que les gens ne le regardent plus ensuite quand ça passe à la télé française.
Exactement.
Espérons qu'il en soit de même un jour pour les comics, un peu plus proche. Si on arrive à le faire pour la télé.
À la télé française, les comics. Je me disais qu'il faut que ça y aille.
Si on arrive, à faire des doublages et vachement plus rapidement et à avoir 3 à 4 mois de décalage, je crois qu'on peut quand même arriver à réduire les comics. Hein.
Ouais.
Ou c'est juste, de la traduction écrite. Ouais. Façon de parler, mais en tout cas, ça demande moins de moyens que les séries télévisées. Bref, c'est un autre sujet, on va pas déborder là-dessus, sinon on va faire encore plus long et c'est pas le but. Bien, sur ce, ça conclut nos news, à moins que tu aies autre chose. De dernière minute.
Non, écoute.
Donc pas de news de dernière minute. On enchaîne sur la première review et cette fois-ci on commence avec un petit peu de librairie et on va commencer avec
sport, on commence pas.
La blague du mois. Le tome 2 de Kick-Ass.
Ah, il avait attendu. On l'a fait. Voilà.
On va en parler, ça va être très très rapide. Puisque de toute façon,
Vas-y.
Vous connaissez nos avis sur Kick-Ass. Donc ce sont les épisodes 5 à 8 de la mini-série. En tout cas, du volume 1 de la mini-série, puisque ça devrait peut-être avoir une suite un jour, un volume 2. Mm-hmm. Toujours Mark Millar au scénario, John Romita Jr. au dessin et Tom Palmer à l'ancrage. Alors, bon, on va tout de suite en rentrer dans le vif du sujet. Déjà, les dates de sortie américaines. C'est bien, c'est qu'en France, on n'a pas attendu, donc ça, c'est quand même un gros point positif. Le premier sorti il y a 2 mois, je crois, et le deuxième tome sort là, maintenant.
Oui, enfin, on n'a pas attendu parce que on a attendu que ça se termine aux États-Unis pour le publier, quoi.
Voilà, donc, je vais vous donner les dates de sortie américaines des épisodes. Épisode 5, sorti en février 2009. Épisode 6, en juin 2009. Épisode 7, en octobre 2009. Et l'épisode 8, en mars 2010.
Très bien.
Voilà, donc
ça valait le coup d'attendre en même temps. Hein.
Ah oui, en plus. Oui.
Parce que vu le final, j'ai été choqué.
C'est quand même une série qui a commencé pendant l'été 2008, quoi.
Ouais.
Été 2008, et juste, faut attendre jusqu'à mars 2010 pour avoir 8 épisodes.
Mais c'est l'apanage des grands, ça, l'attente, voilà, c'est les grandes séries comme ça, faut les attendre.
Pour moi, c'est du foutage de gueule. Bon, c'est vrai que ça n'a pas trop d'incidence sur la version française, et tant mieux, parce que au moins on peut lire une mini-série en 8 en très peu de temps, et c'est pas plus mal.
Oui, puisqu'on a attendu 2 ans pour la publier quasiment.
Ouais, mais bon, c'est pas plus mal, puisque c'était au niveau de la sortie du film, bon. Ouais, c'est bien, là au moins c'est vraiment un avantage d'avoir la version française.
Par contre, comme on disait l'autre fois, ils auraient pu sortir le deuxième avant le film, ou pendant le film,
bah,
et sortir le premier un petit peu plus tôt.
C'était un... Ouais, voilà, ça par contre, oui, effectivement.
Voilà.
Mais avec les délais de traduction au niveau du 8, c'est vrai que c'était un peu chaud. Bien, on va passer vraiment à la review. Alors, bah, notre Kick-Ass favori, hein, qu'on adore.
Résume-le en quelques mots.
Rencontre un autre super-héros qui devient ultra populaire et qui a plus de fans que lui sur MySpace.
Donc il est pas content.
Qui s'appelle Red Mist. Alors je sais pas s'ils l'ont traduit en français, en brouillard.
Je crois qu'ils ont gardé le nom original, autant que je me souvienne.
Ouais, bon. Red Mist, bon, il est un petit peu déçu d'avoir de la compétition et puis que cette personne s'en sorte mieux que lui. Il décide de le rencontrer et puis finalement ils deviennent super potes et ils font des balades en Mist mobile. Voilà, bon, c'est...
Bon, il y a quelques allusions marrantes à Marvel Team-Up, à...
Ouais, sur les Team-Up en général, c'était pas mal.
Bon, ça, c'était les allusions marrantes. On passera aux allusions moins marrantes plus tard, après le résumé de l'histoire. Résumons l'histoire.
Ouais, et puis on donnera notre avis ensuite, ouais, effectivement.
Oui, voilà.
Ensuite, Big Daddy et a Girl décident d'aller voir Kick-Ass et puis de lui proposer une espèce de partenariat pour aller faire tomber la mafia locale.
Voilà.
Et puis bon, arrivé à l'épisode 7, on arrive enfin à la scène qu'on voyait dans le premier où se faisait électrocuter les boules.
Oui. J'avais même oublié d'ailleurs.
Mais oui,
il le résume au fait dans l'intro de Panini. Et je me suis dit, mais pourquoi il parle de ça? J'ai jamais vu ça. Et si, au fait, si, apparemment, ouais.
En voyant la scène, moi je me suis dit, ah oui, c'est le premier.
Donc, d'accord.
Voilà. Et puis bon, bah ça se termine tranquillement. Je vais pas révéler la fin au cas où vous l'auriez pas lu, puisqu'à ce qu'il paraît, elle est vraiment différente de la.
Celle du film,
celle pour ce film. Donc pour que vous puissiez le découvrir si vous avez aimé le premier. Bon, je pense que si on a aimé le premier, on devrait aimer le deuxième.
Oui, alors bon, le truc c'est que vas-y, si t'as pas fini, vas-y.
Oh bah non, je vais m'arrêter là pour l'histoire.
Bon, ça ok. Suffira. Alors, déjà sur l'édition Panini, parce qu'il faut quand même en parler à chaque fois. Donc le premier, tu te souviens, le premier vrai super-héros, machin et tout, le premier comics réaliste, tatati tatata. Là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit avec le deuxième, si on présente ça comme un truc réaliste, il va y avoir des problèmes. Donc ils ont arrêté le délire. Donc là, ils sont bien plus calmes chez Panini avec cette deuxième partie. On nous dit pas que c'est réaliste pour dessous, donc c'est pas plus mal puisque du coup j'ai préféré cette lecture à la première.
Et toi aussi?
Ah oui, moi j'ai préféré cette lecture à la première.
Bon, par contre, ils ont pas corrigé la faute sur la tranche où ils ont écrit John Romita Jr.
Ah, j'avais même pas vu, tiens. Ah oui, tiens, ils ont même pas corrigé. Ok, bon bah très bien, on voit les pros. Non mais quand même, là faut le faire, hein. Parce que moi j'avais pas remarqué, mais ouais, là franchement, fallait quand même insister. Bref, donc j'ai préféré parce que, pour diverses raisons. Alors déjà, il y a plus ce côté, c'est un comics réaliste. Donc là on est complètement dans le délire, c'est tellement délirant d'ailleurs que les origines de, Big Daddy et Big Girl m'ont fait éclater de rire, plusieurs fois, tellement c'est...
Ouais, enfin,
tellement c'est grotesque.
J'ai bien aimé le retournement de situation.
Ouais, mais enfin, c'est.
Oui, de ce qu'il y a dans la mallette de Big Daddy, en fait.
Oui, voilà. Non, mais.
J'ai bien aimé. Maintenant, j'ai pas aimé l'origine et la raison, mais j'ai bien aimé le retournement de situation de ce qu'il y avait dedans.
Ouais. Mais bon, c'est quand même assez grotesque. Hein, c'est du grand guignol.
Ah, bien sûr.
Bon. Mais néanmoins, j'ai bien aimé parce que c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas vendu comme quelque chose de pseudo-réaliste, ou de réaliste tout court, d'ailleurs, comme c'était le cas avec le premier. Donc, j'ai préféré ça. Tout de même. Ensuite, quand on commence la lecture, il y a toujours Millar qui part dans ses énumérations de références pseudo-culturelles. Alors, il y en a une, par exemple, qui m'a énervé au début, c'est Kick-Ass qui dit que il y a quelques semaines, il était Heroes saison 1, et puis maintenant, il est comme Heroes saison 2, qui est la saison toute pourrie, etc.
Bon, bah à l'époque, il n'avait pas dû voir la 3, je pense.
Ouais, non, mais ça c'est pas grave, mais ça m'énerve un peu parce que, tu vois, c'est un petit peu la référence facile. C'est genre, tiens, je suis Marc Millar et je vous dis que la saison 2 de Heroes, c'est tout pourri. Et donc, il y a forcément des gens qui vont lire ça, qui vont dire, ah tiens, Marc Millar pense comme moi, il a trouvé aussi que la saison 2 d'Heroes, c'était tout pourri. Ah,
il a pas tort, il a pas tort, c'est tout pourri.
Non, mais d'accord, mais c'est cheap, tu vois, c'est des références cheap, c'est vraiment pour se mettre des lecteurs dans la poche, quoi, tu vois. C'est ce côté-là qui m'énerve chez Millar, c'est cheap. Alors que il y a des références sympas, tu vois, il y a des références drôles à d'autres moments, comme je te disais Marvel Team Up,
ouais, ouais.
Ou comme je sais plus, il parle de Batman, de Robin, c'est qui le plus cool entre Bourne et James Bond, enfin tu vois, bon ça va, ça tu vois, c'est encore des références. D'ailleurs c'est sur la deuxième page déjà, puisque il y a ce fait, généralement ça alterne entre les insultes et les références qui cassent. Enfin, c'est intéressant. Mais bref, voilà, donc bon, il y a des trucs sympas, tu vois, des références sympas, et puis d'autres qui sont un petit peu énervantes. Pour appuyer mon exemple, je te dirais que, par exemple, je suis pas sûr que Millar serait content si je disais que tel personnage, c'est un petit peu Ultimate saison 1, et puis que l'autre, c'est Ultimate Comics Avengers, parce qu'il est tout pourri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que ça lui ferait très plaisir.
En même temps, c'est pris à son propre piège, hein.
Ah oui, d'accord, mais je veux dire, bon, voilà. Tu sais, c'est les références un petit peu faciles, quoi, tu vois, c'est un petit peu facile. Tout le monde est tombé sur la saison 2 de Heroes. Même si elle est pourrie, bon, enfin voilà quoi, c'est pas, c'est un peu simplé d'attraper les fans comme ça quoi. Sinon, l'autre gros problème que j'avais eu, c'était le message un peu comme c'était présenté comme un comics réaliste à la base, le message genre allez sur YouTube et faites les cons et vous pouvez devenir célèbre en 5 minutes. Là, il y a plus trop ce côté-là quoi. Là, c'est tellement grand guignolesque, c'est tellement ridicule. Que du moment que c'est pas présenté comme quelque chose de réaliste, qu'il y ait des références à YouTube, à des trucs comme ça, ça ne me dérange plus, dans la mesure où il n'y a plus cette espèce de, comment dire, d'incitation, tu vois.
Bah, moi, je l'avais pas pris comme une incitation au départ. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est... de façon ironique.
Bah, hein. C'est peut-être aussi parce que tu as lu la version originale et pas la version française, parce que fallait voir la présentation de Panini sur... la préface, etc., qui vraiment présentait ça comme quelque chose de réaliste. Alors là, il n'y a plus du tout cette présentation réaliste.
Les quatrièmes de couve américaines étaient pareilles, hein.
Ouais.
Très, justement. Très débordantes de gentils mots, etc.
Voilà. Mais après, c'est tellement.
Franchement, j'ai préféré ce deuxième tome parce que je l'ai pris pour ce que c'est-à-dire un truc.
Exactement. Oui.
Truc qui se lit de façon simple, où on se prend pas la tête. Et où on arrête. Enfin voilà, ayant lu les quatre premiers, je savais un peu à quoi m'attendre pour la suite. Donc je l'ai pris pour ce que c'était, c'est-à-dire quelque chose que je n'aime pas. Et donc voilà, j'ai été un peu plus agréablement surpris que le premier où j'avais été particulièrement déçu.
Voilà. Alors, enfin, le truc c'est que moi c'est vraiment c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que là je l'ai pris pour ce que c'était, c'est-à-dire un gros délire. Alors que le premier, comme le pitch de base c'était voilà le premier comics de super-héros réaliste. Bah là, je pouvais pas accrocher, puisque c'était pas du tout ça.
Bon, après...
D'ailleurs, il y a aucun message, finalement, au final, dans Kick-Ass. Enfin, je sais pas si t'as trouvé des messages.
Non, pas, pour moi, honnêtement, après, les goûts et les couleurs, ça regarde, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Pour moi, c'est un AV. Pour moi, cette série est un AV.
Voilà.
Donc,
bon, bah, écoute.
Ça fait partie du panthéon des conneries que j'ai pu lire en comics, et donc ça, je le mettrai au panthéon des saloperies que j'ai pu lire. Donc voilà, bon, maintenant, je l'ai lu, je suis content d'avoir lu, parce qu'au moins, je peux cracher dessus en l'ayant lu, et pas, comme beaucoup, cracher sur la gueule de choses dont on ne connaît rien, on n'a jamais lu un épisode en disant « ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde ». Voilà, je l'ai lu, je peux dire que c'est de la merde parce que je l'ai lu. Donc voilà, maintenant, je suis content de l'avoir lu quand même, pour pouvoir avoir un avis dessus.
Ok, mais ben moi, je serais même plus réservé que toi, c'est-à-dire que la seconde partie, parce que, justement, c'est le gros délire total... J'ai même plus ou moins apprécié, quoi. C'était pas bon, hein.
Moi, j'ai pas apprécié. L'avantage, c'est que ça se lit vite et que ça, voilà. On se prend pas trop la tête, quoi. En une vingtaine de minutes, c'est torché, donc, voilà. Ouais. Moi, ça m'a pas bouffé trop de temps à lire ça. Là où je suis plus réservé, c'est que il y a une possibilité de volume 2. À la fin du volume 1, je suis pas sûr qu'on ait vraiment la possibilité d'un volume 2. Ça tomberait un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Pour moi, l'histoire s'arrêterait là, ce serait pas plus mal.
Oui, bah
au-delà aussi, au-delà de la qualité, je parle simplement.
Les blagues les plus courtes étant les meilleures.
Mais non, mais je veux dire, même au-delà de la qualité, faire une suite, je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Vraiment. Donc voilà, bon, maintenant. Bon, de toute façon, on va pas rester 3 heures là-dessus, hein, y a pas.
Non, mais attends, juste pour conclure, tu sais, finalement, donc comme je te disais, y a aucune conclusion vraiment justement à tirer de ça. Puisque autant dans le premier épisode, il avait essayé de montrer que quand on était violent, pouvait nous arriver des problèmes, des petits soucis. Autant après, voilà quoi, il n'y a plus rien quoi. C'est tellement du grand n'importe quoi que. Enfin, je pense que t'es d'accord quoi. Et on peut même pas trouver de conclusion à qui casse quoi.
Si un truc, un point positif. Ah. J'ai trouvé John Romita Jr. un peu plus soigné sur ses dessins à travers ses quatre derniers épisodes que les quatre premiers.
En même temps,
il y a plus de délais, donc il a eu plus de temps.
Ouais, il y a plus de. Non, mais c'est vrai que les scènes de
boucherie,
d'orgie de violence là, passent beaucoup mieux. Ça fait moins l'aspect puré dont je parlais l'autre fois, quoi, tout simplement.
Peut-être que j'ai pris moins de temps pour les regarder aussi, mais dans l'ensemble,
non, mais
ça
moi,
m'a
je,
moins choqué.
Là, je suis en train de refeuilleter le truc. Alors, ça vient peut-être aussi de l'ancrage. Qui est un petit peu plus soigné, je sais pas, qui est moins.
C'était Tom Palmer
ils ont
aussi.
Hein. Ils ont eu plus de temps.
Oui, c'est ce que je disais. Hein. Ils ont eu beaucoup plus de temps pour soigner les pages, donc au moins voilà. C'est un peu positif. Bon, bref, on va pas passer plus de temps et on va attaquer maintenant le kiosque avec
Spider-Man.
Ouais, le numéro anniversaire du mois, le Spider-Man numéro 125.
Youpi.
Deux épisodes dans ce numéro un petit peu anniversaire.
Ouais, deux gros épisodes.
Ouais, deux énormes parce que. Que 2 pour 96 pages. Pas mal. Je crois qu'il fait peut-être même 104 pages cette fois-ci.
Oh, alors ça, je sais pas, hein, j'ai pas compté les pages.
Je sais plus. Puis bon, comme j'ai pas les magazines français sous les yeux, je les ai même pas du tout d'ailleurs, c'est difficile de vérifier. Donc le premier épisode, c'est le Amazing Spider-Man Annual numéro 36. Le scénario est de Mark Guggenheim, les dessins sont de Pat Oliff et l'ancrage est de Oliff et Lanning. Alors ça commence par une espèce de petit flashback où on voit Peter Parker agresser quelqu'un dans une maison en feu.
Voilà, oui.
Et on se demande un peu ce qui se passe, quoi.
Exactement, on sait pas trop.
On se doute bien que c'est pas Peter Parker de toute façon, puisque. Voilà. Ou alors.
Ou alors c'est un gros quiproquo, ou c'est peut-être. Ouais, enfin on se doute qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et qu'on aura sans doute une explication.
Voilà, mais bon, c'est vrai que déjà on se dit bizarre. Puis ensuite on enchaîne sur une scène, je trouve mémorable. Une scène de dîner. Pour les fiançailles, enfin pas les fiançailles, mais un dîner où tout le monde est là, tous les gens se retrouvent avant le mariage en fait de Tante May et de Jameson senior. Voilà. Et là franchement la scène est je trouve magnifique.
Ouais, les dialogues sont très marrants au début, enfin même ensuite ça va quoi, mais surtout cette scène là quoi, c'est vraiment et puis ce qui m'a fait marrer c'est Peter qui découvre donc la famille Rayleigh, au fait.
Oui, voilà.
Puisque la surprise, c'est qu'on a toute la famille de Tante May qui vient à cette réception.
Famille qu'on ne connaissait pas, hein, je crois. Hein, qu'on avait jamais
Alors, je me suis demandé si on avait déjà entendu parler d'eux, ou si on a... Enfin, on a déjà entendu parler d'eux, mais est-ce qu'on avait déjà vu les membres de la famille, même ne serait-ce qu'en photo ou Par exemple, je me demande s'ils étaient venus à au mariage de Peter, par exemple. Je sais pas. Faudra vérifier si on les avait vus à l'époque. Dans tous les cas, ce qui m'a fait marrer là, c'est de voir par exemple ses cousines. ça les moustille un petit peu d'ailleurs.
Oui, et puis après, il se flagelle mentalement d'avoir des pensées osées avec ses cousines.
Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en ce moment, il a toujours quelques petits problèmes avec les filles et il faut qu'en plus il s'émourache de ses cousines. Vraiment pas de chance, le pauvre.
D'ailleurs, une des cousines est rousse, hein, comme toujours.
Ouais, au fait, voilà quoi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a vraiment, elles sont toutes les trois. T'as limite Gwen Stacy, Betty Brant et Mary Jane, quoi. Les trois sosies en plus. Donc c'est non, c'est franchement marrant. Il y a plein de petits gags comme ça et puis d'allusions. De Peter à Jameson, puisqu'il lui dit grosso modo qu'ils vont devenir quasiment frères, quoi.
Ce qui est totalement faux, hein, ce que démontre bien
Bah,
Jameson, puisque
évidemment.
de toute façon, Tante May, c'est sa tante.
Oui, tout à fait.
Donc
Mais bon,
voilà.
juste pour bien l'énerver, voilà, quoi, c'est.
Et puis j'aime beaucoup Jameson qui lui resserre du vin pendant le fameux toast de son père qui dit qu'il lui met le feu au pantalon, grosso modo. Alors je sais pas si c'était vraiment traduit comme ça, mais c'est un peu ça, quoi. Comme c'est quelque chose qu'ils ont pas envie d'entendre tous les deux, Jameson lui resserre du vin en lui disant tiens, reprendre ce superbe vin que j'ai acheté 4$ la bouteille, quoi.
Ouais, ça je m'en
Le
souviens.
mec est un pingre monstrueux. Non, franchement, c'est. Puis bon, voilà, quoi. Toute la scène où il réfléchit, où Peter pense à. Et pourquoi il n'y aurait pas un super vilain qui viendrait briser tout ça, ça me permettrait d'y échapper. Non, c'est vraiment bien construit, c'est vraiment drôle. Ça m'a même fait rire fortement, enfin, en tout cas avec du bruit, quoi. Ce qui est souvent, je souris simplement, mais quand je rigole, enfin, c'est très rare que je rigole vraiment en lisant un comic. Et là, ça a été le cas, donc franchement, bien écrit.
Et justement, les vœux de Peter sont exaucés ensuite, puisque débarque un super vilain inconnu.
Le fameux Raptor qui en vaut son nom que très très tard.
Voilà. Alors, bah, c'est justement la. Voilà, on aborde la seconde partie qui est un peu moins bien que la première, on va dire, puisque en fait, j'ai trouvé qu'ensuite la confrontation entre Spider-Man et Raptor vraiment durait trop longtemps, quoi. C'était vraiment.
Ah bah elle dure, c'est vrai, mais il y a du très très bon dialogue de la part de Spider-Man et c'est pas. Enfin, je trouve que les vannes n'étaient pas, me paraissaient pas lourdes comme c'était le cas il y a quelques mois, où c'était vraiment lourd.
Ouais, je serais un peu plus réservé que toi là-dessus, par contre. Hein. Je l'ai pas trouvé transcendant, en fait, cette bagarre. Puis bon, les dessins de Pat Oliff que j'aime bien du reste, là, sont bons. C'est vrai que c'est. Enfin, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux ni de plus détaillé, quoi. C'est vraiment.
Non, mais moi ça m'a suffi en tout cas.
Ouais. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé un peu long, quoi, la bagarre. Bon, après, il y a la révélation finale.
Ouais, qu'on va
Ça
pas
passe.
donner pour le moment, je pense que.
Ouais, bah de toute façon, on
Voilà.
en reparle dans quelques mois, hein. Donc
Ouais, et honnêtement, j'ai super hâte. J'ai super hâte. Parce que, je sais pas, ça m'a vraiment intrigué. Bah, pour moi, l'épisode est vraiment excellent. Il y a de l'humour, il y a de la baston, il y a du mystère. J'ai vraiment l'impression de revenir à la bonne époque des années 90 avec cet épisode.
Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est bon, peut-être qu'on le comprendra enfin après, c'est comment le mec qui recherche donc Peter Parker a pu comme par hasard le trouver ce soir-là alors que en fait il n'est pas à New York, hein, faut préciser que ça se passe
À Boston.
à Boston. Comment ça se fait qu'il a pu le trouver et soi-disant il recherche depuis quelques mois, mais ça doit faire des années au fait, puisque
Et si je me rappelle. Ah, je me rappelle plus, je sais pas si c'était pas il y a 6 mois ou un truc comme ça.
le flashback qu'on voit au début, c'était il y a plusieurs années, ce qui est
Ah,
logique d'ailleurs.
oui.
Avec ce qu'on comprend à la fin, mais donc du coup voilà quoi, je comprends pas comment ça se fait que ça fait seulement plusieurs mois qu'il est à sa recherche,
Mais
parce
je.
qu'effectivement il dit ça fait 6 mois que je te recherche, donc pourquoi seulement 6 mois, et surtout
Je
comme par
dirais qu'avant
hasard,
il était à l'hôpital, peut-être.
peut-être oui, peut-être pendant des années il était à l'hôpital, et puis peut-être que aussi bah il avait pas ses pouvoirs au début, donc peut-être qu'il a, enfin je sais pas, on verra tout ça, mais ce que je trouve étonnant c'est cette coïncidence
Mais
extraordinaire qui fait qu'il arrive à le trouver, quoi.
je crois que quand on le voit sur le toit au début avec les jumelles, il dit comme enfin quelle chance quoi, je suis tombé dessus, mais je crois qu'il est vraiment tombé sur lui par hasard.
Bah oui, bah c'est ce que je dis, oui, quelle chance, franchement. Tu
Ouais,
vois, non mais
mais
sur
je crois, en même temps, je pourrais pas le
parce que Peter
certifier.
Parker est quand même dans une salle de réception entourée de monde, enfin tu vois, c'est dans une ville comme Boston, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi, tu vois, c'est vraiment. Bon, enfin bon, bref, enfin cela dit, c'est vraiment bah bon, quoi.
Ah ouais, non,
C'est
franchement, moi, comme je te disais, pour moi,
.
c'est un peu la même ambiance qu'il y avait dans les comics de Spider-Man début des années 90, quoi, à l'époque, Larsen, McFarlane et compagnie, quoi.
Ouais, y a du mystère, quoi. Y a vraiment du gros, gros, gros mystère.
Ah, puis même au niveau de l'ambiance, on fait de la scène familiale qui prend une bonne partie, presque une moitié de l'épisode, ensuite une baston l'autre moitié. J'ai vraiment l'impression de ce schéma-là, et c'est du bon, quoi. Ça fait vraiment plaisir de lire du très bon Spider-Man. D'ailleurs, depuis quelques mois, je trouve que ça s'est nettement amélioré comparé au
Oui, ça
début
s'est
de Brand New Day.
nettement amélioré, ça va nettement baisser dans quelques temps.
Bon,
Mais
je sais pas, on verra, mais moi, en tout
moi, c'est
cas,
mon
ça
avis,
me...
enfin tu verras, on en rediscutera de toute façon. Mais la suite au fait de cette intrigue, ce sera, je crois, que je dise pas de bêtises, je crois que ce sera en octobre. Il faudra attendre octobre pour avoir le fin mot de l'histoire.
D'accord. Bah,
En français.
il me tarde en tout cas. Il me tarde. On passe au deuxième épisode, et donc là encore une fois, on continue l'anniversaire avec le Amazing Spider-Man numéro 600. Le scénario de Dan Slott, les dessins sont de John Romita Jr. et Klaus Janson à l'ancrage. Et là c'est pareil, pour moi ça continue bien, j'ai trouvé aussi que c'était un très bon épisode.
Alors, moi, je l'ai lu en VO il y a quelques mois, et je l'ai relu en français. Et à la deuxième lecture, mais qu'est-ce que je me suis fait chier? Oh là là là. Franchement, honnêtement, y a plein de trucs, quoi, tu vois, qui m'ont ennuyé finalement dans cet épisode. Plein plein de trucs, quoi. C'est vraiment les scènes les plus longues, c'est vraiment les plus embêtantes, quoi. Et les plus intéressantes, c'est vraiment les scènes les plus courtes, quoi. Les petits morceaux du mariage. Et encore. En fait, ce qui est vraiment sympa, voilà, c'est que bon, alors, on va déjà résumer grosso modo l'intrigue. C'est enfin le mariage de Jameson Senior et de Tante May. Donc tout le monde s'affaire en préparatif. Et en même temps, c'est le retour d'un grand ennemi de Spider-Man, puisque c'est le retour d'Octopus.
Oui, qui apprend qu'il n'a plus que 18 mois à vivre.
Alors déjà, Octopus, dans les années 90, est déjà mort. Et il a été ressuscité par la main. Et en plus, il avait foutu son esprit dans une espèce de machine, dans un ordinateur, etc. Donc, il était virtuellement, on va dire, immortel, quoi. Et là, Dan Slott ne doit pas le savoir. Donc, du coup, on se retrouve avec un docteur Octopus qui, à nouveau, nous dit qu'il va mourir. Alors qu'au fait, normalement, il a une, on va dire, une bonne assurance vie, quoi. C'est-à-dire qu'il est sûr de trouver un moyen de survivre, théoriquement.
Ouais, mais l'explication de sa mort, enfin du pourquoi il va mourir, c'est simplement le fait de coups surpuissants répétés,
Ouais, bien
puisque...
sûr. Non, mais l'explication est logique, mais ce que je veux dire, c'est que il sait que s'il veut, il pourra survivre, quoi. Il peut changer de corps, il peut être ressuscité. Enfin, il est déjà passé par là, quoi, le bonhomme. Donc bon.
Bon, par contre, je suis pas fan de son nouveau look, hein.
Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le nouveau look d'Octopus à la psychomantis de Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment ouais. Bah, une momie, quoi.
Ouais.
Une espèce de
Alors,
momie.
les quatre bras supplémentaires me dérangent pas, mais c'est le look général, quoi. Bof.
Ouais. Une espèce de momie décrépite. Voilà, bon bah ouais.
Donc, bah, en fait, il décide de prendre le contrôle de New York avec ces espèces de petits octopus mécaniques là qu'on voit, comme il appelle ça, les Octobots.
Ouais. Et de contrôler tout ce qui est
Tout ce qui est
électrique.
système électrique, ouais, voilà.
Voilà. Mais c'est déjà aussi plus ou moins arrivé, ça. Il a déjà plus ou moins fait ça dans. Bah justement durant les années 90, je crois que c'était durant la saga du clone, quand il était mort, quoi, en fait. À travers des ordinateurs, il arrivait à contrôler pas mal de choses. Donc bon.
Moi, je trouve que le combat contre Octopus est un peu long, ça c'est certain.
Voilà, ouais, non, il y a aussi ça, quoi. C'est vraiment. Et puis, je sais pas, c'est un peu lourd, quoi, les scènes avec Human Torch, avec les Vengeurs aussi qui viennent prêter main forte. C'est un peu
Oh,
trop con,
y a
quoi, en
la
fait,
scène
parce
avec
que c'est bien.
Daredevil aussi au début, mais en même temps, c'est un épisode anniversaire, donc c'est bourré de guests. Là encore une fois, c'est très années 80-90 dans l'esprit du numéro anniversaire, quoi. On fout le
Bon,
maximum de guests, en plus il y a un mariage, il y a le retour d'un grand ennemi. Je crois qu'on peut pas demander plus là. Ils ont vraiment tout fait dans cet épisode.
oui, enfin moi je me suis un peu ennuyé et puis je sais pas quoi, pour un numéro anniversaire, je l'ai pas trouvé génial, quoi. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Bon, à part à la fin, quoi, si tu veux, sur la dernière page, mais encore on peut s'y attendre grandement, hein, j'allais dire. Mais ouais, enfin moi ce que j'ai surtout trouvé sympa, c'est de voir d'anciens amis de Peter Parker, enfin des amis même actuels, se rencontrer et discuter ensemble, quoi. Il y avait des clins d'œil assez sympas. On voit Flash Thompson, on voit Johnny Storm, on voit
Le fils
je
de
crois même qu'il y
Robbie
a Johnny à
aussi.
un moment qui parle du fait qu'il sortait souvent avec
Ouais.
Peter, Flash, Gwen, MJ et compagnie.
Ouais, il en parle justement.
Ce qui est d'ailleurs pas vraiment vrai, mais au fait avait été ajouté dans la mini-série Human Torch Spider-Man. par Dan Slott en fait. Donc comme c'est lui qui scénarise, il en profite pour replacer sa continuité à l'intérieur de son histoire.
Non, puis bon, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont sympathiques, tout ce qui est extérieur au combat, quoi. Les petits moments de dialogue. Il y a d'ailleurs des petites vannes qui sont énormes, du genre New Hawk City, des petites choses comme ça qui m'ont fait vraiment rire.
Ouais. D'ailleurs, ils
Ou
l'ont traduit comme ça, je crois, en français. Enfin, ils l'ont
oui.
laissé tel quel, je veux dire.
Autopilot, qui était
Ouais.
écrit auto comme
Ouais,
autoliste.
je crois aussi que ça y est dans la version
Bah
française.
ça c'est des trucs qui sont traduisibles en français puisque ça se comprend quoi.
Mais ouais, enfin voilà quoi, un peu longué et puis finalement, enfin voilà quoi, la deuxième lecture, j'ai vraiment trouvé que ça tombait un peu à plat quoi. Il y avait pas grand-chose à tirer de cet épisode. Enfin, je m'en souviendrai pas, ce sera pas un épisode anniversaire mémorable pour moi quoi, du tout.
Bon, en tout cas, je me suis bien marré, franchement, comme je disais
Non mais
juste à
enfin c'est
l'instant,
sympathique hein, mais je veux dire bon pour un
c'est
numéro
c'est
anniversaire c'est
l'épisode
pas.
anniversaire dans toute sa splendeur, quoi. Mariage, retour d'un vieil ennemi et puis plein de guests.
Enfin comparé à certains épisodes anniversaires comme le 200 avec le retour du cambrioleur, je me rappelle à l'époque dans Strange, où enfin voilà quoi, il y avait le numéro 300, je me rappelle que c'était Venom, et le 400 t'avais la mort de
La mort de Tante May, ouais.
première mort de Tante May. Et justement là en plus la voir se marier alors que on a sacrifié il y a quelques mois le mariage de Peter, je trouve ça quand même assez hallucinant, je dois dire. Mais bon. Voilà.
Non, je sais pas, moi franchement ça me plaît bien. Pour moi honnêtement, le kiosque que j'ai préféré pour le moment ce mois-ci.
Ah d'accord.
Ouais, parce que au niveau globalité, c'était vraiment bon pour moi du début jusqu'à la fin, quoi. Même
Bah
si
moi
le combat
j'ai
du
vraiment
coup c'est
adoré
un
la
peu long.
première histoire, l'annual. Je serais beaucoup plus réservé sur le 600 quoi, franchement, à la deuxième lecture. Mais bon, enfin voilà, c'est clair que comparé à ce qu'on a eu il y a quelques mois, ça s'est nettement amélioré.
Il y a sûrement ça aussi qui joue dans le fait que j'ai trouvé ça vachement sympa, c'est que comparé aux derniers épisodes, quand je dis aux derniers épisodes, ceux d'il y a, on va dire, 4, 5, 6 mois, voilà, là on a vraiment de la qualité de nouveau dans Spider-Man comparé à avant. Alors c'est sûr que comparé aux années 80, 90,
Oui, mais.
même au début des années 2000, c'est moins bon, c'est certain, mais par
Oui, non, mais
rapport à ce qu'on a eu récemment.
pourquoi c'est mieux? C'est surtout parce que, comme tu le disais, ils reviennent à d'anciennes choses, quoi. D'anciens concepts et d'anciens ennemis. Puisque là, enfin, on part de. Enfin, ils arrêtent avec les nouveaux ennemis introduits avec Brand New Day, quoi. Plus de menaces, plus de mystères négatifs, et ça fait quand même du bien de plus les voir, parce que, voilà, c'était pas les mieux. Enfin, franchement, bon, voilà.
On verra ce que nous réservent les prochains mois, mais là une
Ouais,
fois de
ouais.
plus avec la fin de l'Amazing, j'ai envie de voir la suite.
Ok, bah écoute.
Donc voilà, moi je suis vraiment content de cette reprise en main. Alors peut-être qu'elle n'est qu'éphémère, mais en tout cas cette reprise en main actuelle de Spider-Man me donne envie de continuer, quoi.
Bah la suite au prochain numéro.
Ok, on va passer maintenant à la partie Avengers avec Marvel Heroes numéro 32. Premier épisode, c'est le Thor Giant Size Finally. Le scénario de J. Michael Straczynski, dessin de Marco Djergjevic, ancrage de Danny Mickey, Alan Martinez et Marco Djergjevic. C'est donc le dernier épisode de Straczynski sur Thor, et donc après ça, ce sera Kieron Gillen qui reprendra au scénario.
Jusqu'au 615. Après, ce sera Fraction.
Donc, bon épisode. Alors le problème c'est que Giant Size, ça n'en a que le nom. Pour la version française, en version anglaise, on a aussi en plus un sneak peek du numéro 604, c'est-à-dire une sorte de petit preview sur quelques pages de ce qui va se passer dans le numéro 604, plus encore une fois une réimpression du Journey into Mystery numéro 83, recolorisé.
D'accord.
Donc voilà, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même, la dernière histoire de Straczynski, n'est plus ni moins qu'un numéro simple.
D'accord, ok. Oui, ça m'a semblé bizarre, je m'attendais à un truc un peu plus long en fait. Eh ben non, c'est un épisode.
Je crois qu'il doit y avoir une ou deux pages de plus, il va faire 25, je crois. Et
Ah,
encore, je suis
peut-être.
même pas certain. Donc voilà. Donc, eh ben finalement, Will qui s'était fait transpercer le bide le mois dernier,
Ben il est mort,
là il meurt.
il a mouru.
Il meurt. Mais non sans avoir révélé ce qu'il a appris à Baldur, qui du coup décide de se bouger un petit peu et
Bah
d'aller amener le
même de
combat.
se bouger, j'allais dire très vite, puisqu'au fait ça se termine assez vite au fait. C'est Balder se dépêche même un peu vite de riposter, puisque Bah là, l'épisode, ça, en fait, termine vraiment cette intrigue, on va dire, assez rapidement, quoi.
Bah, l'intrigue sur Will, en fait, ouais.
Ouais.
Parce que finalement, l'intrigue avec Doom et Loki va continuer dans les pages du scénario de Gillen, donc c'est bien ce que je pensais. Ça me paraissait un peu juste de terminer ça en un seul numéro.
Ah oui, non, c'est clair que ça aurait été bâclé s'il avait voulu terminer vraiment le truc en un seul numéro, en 22 pages, ça aurait été impossible. Mais enfin voilà, la Balder vraiment comprend très vite qu'il a été dupé, et puis du coup, voilà, tout le monde recherche Loki, quoi.
Ouais. De son côté, Kelda, elle, apprend que Will meurt, et elle décide, elle jure de venger sa mort en tuant Loki. Et enfin, dernière chose, on a aussi
surtout, oui.
De leur côté, Thor en exil, plus ses trois amis et Sif qui reçoivent la visite de Doombot amélioré.
Ouais, donc qui explose d'ailleurs très vite.
Ouais, mais qui ne part qui pas sans laisser un dommage irréversible.
Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu retour au statu quo d'il y a longtemps. En fait, Donald Blake a à nouveau besoin de sa canne, quoi.
Exactement, voilà, c'est ça. On a quand même une scène avec Volstagg qui est monstrueuse, la scène où il finit à poil.
Non, mais en fait, il y a toujours énormément d'humour, et on se marre bien à lire Thor par Straczynski, quoi. C'est toujours super plaisant. Et on en voulait toujours plus, et voilà, quoi. C'est vraiment triste de le voir partir maintenant, parce qu'en plus, c'était toujours aussi sympa à lire.
La fin d'un run, la fin d'une époque. Alors, c'est pas des rumeurs, mais les avis sur le run de Gillen sont pour le moment vraiment, vraiment encourageants.
Tant mieux.
Parce que c'est pas un scénariste super expérimenté non plus, et passer après quelqu'un comme Straczynski.
Ouais, voilà, faut avoir des épaules solides. Et tant que Gillen continue aussi les intrigues laissées en place par Straczynski, puisqu'il y a toujours moyen de.
Ah bah le sneak peek du prochain numéro que j'ai lu, sans révéler quoi que ce soit, puisque vous ne l'avez pas lu en France, un Asgardien meurt, et le retour d'un grand ennemi de Thor. Voilà, je n'en dirai pas plus, juste histoire de vous allécher un peu.
Ouais, mais ça semble plutôt prometteur. Et justement, ce qu'on peut justement, certains reprochent à Straczynski de partir comme ça en laissant des trucs un peu en plan. Enfin, on peut en parler maintenant d'ailleurs, puisque c'est au fait qu'il y a encore une fois Panini, enfin Christian Grasse dans sa postface là, qui tombe sur Straczynski en disant que, en le présentant encore une fois comme un auteur qui termine pas ses histoires, en gros. Donc c'est la deuxième fois déjà, puisque il y a quelques mois il avait déjà fait le coup, lors de l'épisode 600, j'en avais parlé, je me rappelle, ça m'avait énervé. Et là il recommence en plus. Il recommence et il cite à nouveau Power et The 12 comme des œuvres inachevées. Donc moi je trouve ça hallucinant quand même de dire ça, puisque généralement Straczynski, quand il ne peut pas continuer une série ou lorsqu'il arrête pendant un temps, c'est parce qu'il y a des petits soucis éditoriaux, etc., etc. On sait ce qui s'est passé avec Spider-Man, il a été plus ou moins poussé vers la sortie.
Là c'est un peu le cas, il avait demandé à
là c'est carrément le cas, c'est-à-dire que au fait il avait un accord tacite avec Joe Quesada qui était que s'il scénarisait Thor, on lui laissait faire ce qu'il voulait, et puis Thor ne faisait pas partie des gros events, mais voyant que Thor fonctionnait super bien d'un seul coup avec Straczynski, Quesada a pas pu s'empêcher de le laisser tout seul dans son coin, ce personnage là et donc l'a inséré à Siege.
On en dira pas
qui plus. Arrive bientôt, c'est même pas un spoiler en VF puisque Panini l'annonce depuis quelques mois déjà.
On n'en parlera pas plus pour pas révéler l'implication de Thor.
Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, Marvel a voulu utiliser Thor à nouveau dans des gros crossovers, et Straczynski, qui n'était pas d'accord avec ça de prime abord, leur a dit écoutez, si vous brisez notre accord, tant pis quoi. Moi j'arrête de bosser sur le personnage. Et en plus, il a quand même terminé son histoire. Hein. Il laisse des portes ouvertes pour les futurs scénaristes, mais c'est des bonnes portes ouvertes, quoi. C'est pas en plus des trucs embêtants. Alors que Straczynski, par exemple, quand Millar avait démasqué Spider-Man durant Civil War, après Straczynski avait dû se débrouiller pour trouver une excuse au fait qu'il se démasque. Et là, les fans avaient dit c'est pas normal, Peter ne se démasquerait pas, alors que c'était pas la faute de Straczynski en plus pour le coup. C'était Marvel, c'était Millar, c'était Quesada, quoi. Tu vois, qui avait décidé que Spider-Man allait se démasquer. Donc je trouve ça énorme, quoi. C'est vraiment Enfin voilà quoi, je veux dire, bon, le type n'a pas de chance parce que à chaque fois, il se retrouve dans une situation où il est conspué par certains lecteurs et surtout bah là par Panini en l'occurrence quoi, mais c'est totalement injustifié quoi, je trouve ça honteux.
Surtout qu'en plus, The 12 devrait reprendre aux États-Unis normalement bientôt, puisque si ça s'était arrêté, c'est tout simplement que Chris Weston était parti faire des storyboards pour le cinéma, et donc bah, sans dessinateur, Straczynski n'a pas voulu continuer avec un autre, puis il a commencé la série avec Chris Weston, il veut la terminer avec Chris Weston.
Ce qui est à tout c'est son honneur d'ailleurs hein,
Oui.
de prendre une décision comme ça
C'est sûr,
et
parce qu'il
voilà.
sait très bien que de toute façon, les gens vont lui tomber dessus avec ça.
Mais
Mais...
au contraire d'ailleurs, c'est même une preuve de professionnalisme que de vouloir garder son dessinateur et de pas en prendre un autre en se disant allez bon je vais prendre
Ou est-ce
n'importe
alors
quel
que
autre histoire.
personne n'a voulu, peut-être que personne n'a voulu bosser avec lui? Peut-être pour ça.
Ça m'étonnerait, hein. Il a pas, ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de marrant et de joyeux hein, quand on voit ses interventions dans les Comic-Con, etc.
Non, non, mais bon, je disais ça pour rire, bien sûr.
Voilà. Puisque par exemple, faut rappeler qu'il avait annoncé qu'il allait bosser sur Superman en chantonnant le générique du film Superman lorsqu'il était en train de faire des signatures, quoi. Donc c'est assez original, quoi, d'annoncer ça comme ça. C'est marrant.
C'est clair.
Enfin bref, voilà. Donc bah, un dernier épisode bah, aussi bon que le reste.
Ouais. C'est
Mais
vrai que...
la seule déception, c'est que bah voilà.
Trop court.
Part et
Trop court, c'est vrai.
voilà, ouais, trop court. Ouais.
Puis bon, le Giant Size qui n'en est pas un, c'est un petit peu dommage quand même.
J'avais pas compris d'ailleurs, quand je voyais le titre en français, je me dis bah merde, alors qu'est-ce qu'on manque? Enfin qu'est-ce qu'on. Oui voilà quoi, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas.
Moi,
Ok, bah voilà,
le...
bah tu as
Plus rien du
expliqué tout
tout.
ça très bien tout à l'heure.
Ok, on passe à la suite. C'est le Hulk numéro 15. Scénario de Jeff Loeb, dessin Ian Churchill, ancrage Mark Farmer. Bah, c'est la grosse baston entre X-Force et Hulk. Hein.
Non, ouais, clairement, là, comme tu le disais l'autre fois avec Defenders, Offenders, bah là, on retrouve le même pitch, c'est-à-dire une baston prétexte, Domino a vu quelque chose. Bon, on sait pas si elle a vu quoi que ce soit d'ailleurs, mais ça se termine en la bande à Hulk face à X-Force, pendant tout l'épisode, en fait.
Ouais, mais là, ce qui est intéressant, ce sont en fait les pensées de Hulk que l'on voit,
Ouais.
puisqu'il est le narrateur de l'histoire, et on en apprend un petit peu plus sur ses motivations.
D'accord, oui, enfin oui, enfin pas d'accord, oui, je suis d'accord, oui, effectivement, c'est vrai, c'est très juste. Mais j'allais te demander, est-ce que ça t'a donné des indices, toi, sur qui ça pourrait être?
Bah maintenant que je sais qui c'est, en plus,
Ah, tu le sais?
oui, je sais qui c'est. Bah oui, on peut arriver à comprendre avec ces indices. Mais enfin, je pense que si on sait pas qui c'est, on doit avoir du mal à deviner qui c'est avec juste ça. Mais quand on sait qui c'est, ça, disons que voilà, on se dit bah oui, évidemment. En tout cas,
Ouais.
c'est voilà, on sent que c'est déjà planifié, qu'il a déjà l'idée de qui est derrière Red Hulk et que c'est pas un truc qu'il a ajouté à la dernière minute en nous faisant un mystère,
Bah.
en disant je vais donner quelques indices par-ci par-là, mais je sais pas encore qui va être derrière.
Moi, je dirais qu'il peut y avoir plusieurs. Avec ce qu'il dit là dans cet épisode, il peut y avoir plusieurs possibilités, quoi. En le lisant en VO à l'époque et en le relisant en VF maintenant, en sachant qui c'est, voilà, quoi. Je trouvais qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture, quoi. Ça dépend. Bon, enfin bon, l'épisode, voilà, est sympa. Sinon, il y a quelques gags.
Ouais, bah on apprend, enfin il y a surtout Wolverine qui met un grand coup de griffe dans les yeux de Hulk, le rendant aveugle. Ce
Ouais.
qui change complètement la baston en fait, puisque Hulk sert quasiment plus à rien.
Ouais.
Donc vu qu'il a éliminé le gros, reste plus qu'à éliminer les quelques autres. On voit qu'Electra est là-dedans, juste comme ça, elle demande surtout à Domino pourquoi Hulk leur en veut autant. Et on a la fin, l'arrivée d'un nouveau personnage. On se
Ouais.
demande bien qui c'est d'ailleurs.
Voilà, ouais, encore un mystère.
Parce que le truc, c'est qu'elle connaît Logan, elle l'appelle par son prénom. Et malgré les fringues, j'arrive pas à savoir qui c'est. Enfin, le peu de fringues qui reste en tout cas. Donc, je sais pas, j'attends de voir. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant que ça l'était au début. C'est déjà une bonne
Oui,
chose.
c'est beaucoup plus intéressant, mais bon, là, c'est quand même Jeff Loeb qui retombe un peu dans ses travers de grosses bastons avec plein de personnages.
Ah bah ça se lit quand même assez vite, hein.
Mais ça se lit assez vite, et puis comme tu dis, il y a quelques indices intéressants éventuellement sur l'identité de Red Hulk. Et bon, ça continue, quoi, en fait, faut voir. Effectivement, c'est plus intriguant que le début.
Ouais, exactement. Bien, l'épisode suivant, c'est le Mighty Avengers numéro 29, scénario de Dan Slott et Christos Engage, dessin de Coy Pam, ancrage d'Alan Martinez. Troisième partie de l'Arc Unspoken. Et on a encore une fois cette double histoire entre d'un côté la Scarlet Witch Loki qui se bat avec les Young Avengers plus Ronin qui les a rejoints dans le nouveau repère des Mighty Avengers. Et de
ouais,
l'autre côté,
l'Infinite Palace ou je sais pas quoi. Là.
Ouais, je me rappelle plus le nom, merci.
Moi non plus, non, mais je pense que c'est un truc dans le genre, en tout cas.
Et puis, de l'autre côté, Quicksilver et US Agent qui sont au Tibet en train de voir ce fameux Unspoken.
Ils sont un petit peu tout seuls.
Ouais. Bon, finalement, déjà, on apprend que tous les super-héros chinois sont pas morts. Radioactive Man n'est pas mort. Il y en a aussi deux autres, mais comme j'ai pas leur nom en tête.
Ouais, ça m'aurait étonné quand même qu'ils les sacrifient avec un personnage, on va dire, une menace assez mineure, puisque je pense que le Unspoken, on le reverra pas en dehors de cet arc, quoi.
Bon, pour ce qui est de la partie Scarlet Loki, là.
Bah moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, quand même.
Ah bah moi, c'est ce qui m'a un petit peu ennuyé, en fait.
Ah bon, non, mais moi, j'ai bien aimé la confrontation, et je me demandais s'ils allaient enfin découvrir que c'était Loki ou pas, quoi.
Bah ouais, bah voilà, t'as eu la réponse.
Bah oui, non, mais enfin, voilà, bon, on va peut-être pas le dire, si
non,
si
non, on va pas le dire, non.
Mais,
J'ai oublié juste un truc, quand même, c'est qu'on a Hank Pym qui part dans le Macroverse. Donc qu'est-ce qu'il va y faire?
J'ai même oublié ça, dis donc.
Qui demande,
ah oui, effectivement, on voit avec, avec le robot,
de,
là.
De Mister Fantastic, donc le Macroverse dans lequel étaient partis Spider-Man et les 4 Fantastiques il y a quelques mois.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai coupé là-dessus, mais j'avais oublié avant de réoublier ça. Voilà, je
voulais... Non, bah rien, bah alors la baston face à Scarlet Witch, moi j'ai bien aimé, et puis il y avait quelques petites allusions à ses enfants qui font partie des...
Des Young Avengers.
Des Young Avengers, etc. Donc ça faisait appel à des choses qu'on avait vues dans Young Avengers. Non, enfin voilà, quoi,
La façon dont Ronin démasque que c'est pas la Scarlet Witch est un peu ridicule, je trouve. Bah, si c'était censé être de l'humour, moi j'ai pas trouvé ça drôle.
Ah non, je pense que c'est de l'humour. À propos des pastilles de menthe.
Non, à propos du roulage de pelle, tout simplement, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça...
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il... Oui. Bah... Ouais, enfin je sais pas quoi, si puisque peut-être qu'il ressentait un truc particulier quand c'était Vanda, et puis là.
Non mais je sais pas, je trouvais ça bof quoi.
Ouais.
Mais de l'autre côté, tu vois, comme je disais, j'étais beaucoup plus intéressé par l'histoire qui se passe au Tibet avec ce fameux Unspoken. Et il y a un gros ajout dans la mythologie des Inhumains avec ce fameux gaz là, le
Xérogène.
Voilà. Le Xerogenesis en anglais, qui fait dévoluer les humains, qui est en fait une arme Kree, puisque les Kree se doutaient que les humains poseraient problème à l'avenir. Donc on a d'un côté la Terragenèse, qui donne aux inhumains leur pouvoir, et la Xerogenèse qui dévolue les humains en bêtes sauvages, quoi. Mmh. Enfin, je trouve que le fait de faire un petit ajout comme ça dans la mythologie des inhumains est plutôt sympathique.
Bah ouais, enfin, ce que je trouve un petit peu bizarre là-dedans, c'est que quel besoin ils ont, vu qu'ils sont déjà super balèzes, d'en plus rendre encore moins forts les humains, quoi, qui sont à la base moins forts qu'eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Parce que le nombre d'humains à pouvoir, et même d'humains tout court, les supplante totalement.
Ouais. Ouais, enfin, je pense que tu lâches les inhumains sur Terre.
Ah bah, bien sûr qu'ils font des dégâts, mais on avait vu Secret War, justement, où ça avait été un peu le cas. Voilà, non, je sais pas, moi j'ai bien aimé cette partie en fait. Pour moi, le fait de mélanger les deux, ça ralentit énormément le rythme.
Oui, enfin voilà, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que Mighty Avengers, c'est un peu trop. On sent que c'est vraiment trop mis de côté par rapport au reste de l'univers Marvel. Et donc là, la fin, elle tombe un peu à plat, quoi. La toute fin de l'épisode.
Dire qu'il faut appeler tout le monde et.
Oui, enfin en gros, voilà, quoi. À la fin, faut appeler tout le monde, faut appeler toutes les équipes et faut que toutes les équipes se rassemblent.
Bah, c'était déjà la fin du premier numéro de l'arc. Hein. C'est ce que Quicksilver disait à la fin du premier épisode.
Ouais, en plus, c'est vrai. Donc voilà, quoi, ça fait un petit peu convenu comme fin. Donc je sais.
Le problème, c'est que l'arc s'appelle The Unspoken, et j'ai l'impression que cette histoire n'avance pas.
Ouais, aussi, c'est-à-dire que il a fallu qu'ils mettent l'intrigue avec Scarlet Witch pour qu'il se passe d'autres choses. Parce que une fois que t'as présenté le personnage du Unspoken, bon bah voilà. Ce qui aurait été bien, c'est de voir un peu plus d'inhumains du coup.
Bah oui, mais comme ils sont dans l'espace. C'est pas possible.
Exactement. Enfin voilà, donc bon, bah, Mighty Avengers, enfin, moi je trouve ça toujours sympa, mais bon, c'est clairement un peu à la traîne, quoi.
Ouais, bah, faut voir après ce que Hank Pym va faire dans le Macroverse. À mon avis, c'est peut-être ça qui est la partie la plus la plus intéressante pour la suite.
Il y a eu des épisodes plus sympas, quoi, pas comme par exemple l'arc où justement ils allaient chez les Fantastic Four.
Ouais, voilà, bah les premiers arcs, quoi, étaient plus sympas.
Voilà.
On verra si ça se reprend un peu. Je sais pas combien de parties fait cet arc, j'ai pas vérifié. Je sais pas si le prochain sera la fin ou s'il en reste encore après. Je sais pas du tout,
Aucune
j'ai pas
idée,
vérifié.
aucune idée.
Bien, on passe au dernier épisode du mag, c'est le Avenger The Initiative numéro 28, scénario Christos Engage, dessin Rafa Sandoval, ancrage de Roger Bonnet. Et ben là justement, ça bouge là encore une fois.
Oh ouais, là, il se passe tellement de choses à chaque fois dans
Ouais.
Avengers Initiative que c'est très dur
De
de
résumer.
tout résumer, ouais. Il y a tellement d'intrigues, mais déjà ça commence. Enfin, c'est vraiment un très bon épisode, quoi.
Ah
Comme
ouais.
souvent d'ailleurs. Mais là, ça commence carrément sur un coup de théâtre.
Bah une des équipes de l'initiative décide de se rebeller publiquement face à Norman, en révélant que le membre qu'on leur a ajouté n'est ni plus ni moins que Captain Boomerang, donc un ancien criminel, et que bah, celui-ci en profitait pour dérober des gains au casino, puisque c'est l'équipe du Nevada. Et donc bah, les fameux Avengers Resistance, nom que je supporte pas, honnêtement. Décide d'aller les aider alors que Norman décide de les faire assassiner.
Oui, puis en français, je crois que c'est les Avengers réservistes.
Ouais, bon bah
Donc
là
ça
c'est
le fait pas trop, quoi.
toute façon l'un comme l'autre c'est pour
Donc, déjà, ça commence là-dessus, ça commence sur les chapeaux de roue. Et puis ensuite, y a plein d'autres choses. On retrouve les New Warriors.
Ah oui, avec ce fameux Avengers Resistance, puisque
Voilà.
en fait c'est simplement avec l'ajout de Tigra et de Gauntlet que le nom a changé, puisqu'il voulait pas se rappeler les New Warriors.
D'ailleurs, on assiste à une scène entre Justice et sa nouvelle copine. Alors, je sais plus comment elle s'appelle.
Moi non plus.
Qui, au fait, permet de voir un espèce de résumé de la carrière des New Warriors, et on voit un petit peu l'évolution du groupe, et on s'aperçoit effectivement, vraiment de l'évolution importante, quoi, de ce groupe-là, puisque
Bah
Nova,
surtout
c'est
pour
devenu.
certains, parce que pour d'autres, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'évolution.
Justement, l'évolution ou le déclin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont complètement tombés comme Firestar, alors qu'à l'époque, on pouvait pas s'en douter du tout, quoi. Et Speedball qui est devenu un fou dangereux en Pinance. Puis il y avait aussi Nightfighter.
Night Thrasher. Enfin,
Nightcrasher.
Night Fighter, c'était son premier nom, et il a changé de nom ensuite en Night Thrasher.
Voilà, ouais, c'est ce qui me semblait justement, parce que là ils l'appellent tous Nightfighter, mais effectivement je pense que c'était Nightcrasher au début, et puis qui est mort, etc. Et donc voilà, donc ça permet vraiment de revenir un petit peu sur l'historique de cette équipe, et c'est super sympa. De toute façon. Enfin voilà quoi, c'est le gros ensuite de l'histoire, c'est effectivement c'est Avengers résistants qui vont à la rescousse de Prodigy et de son équipe Renega, quoi. Bon, on assiste à pas mal de petits épilogues.
Mais disons que ce qui se passe, c'est que Night Thrasher se prend une balle dans la tête,
Ouais, voilà.
mais ne meurt pas. Et Norman lui propose un marché. Donc ça, voilà. Reste à voir lequel on va pas le dévoiler. On a Komodo qui décide de sacrifier ses pouvoirs pour ne pas être avec Arbol.
Ouais, ce que j'ai trouvé vachement bien pensé, parce que c'est vrai que
Bien
on se
pensé,
souvient ce qui s'est passé, quoi, entre les deux,
mais
donc
vite expédié quand même. Alors à voir si elle reviendra, peut-être en allant voir le docteur Kurt Connors pour retrouver des pouvoirs, ou je sais pas.
Non, enfin ce que je veux dire, c'est que quitte à se débarrasser d'un personnage, autant qu'il ait une raison logique, quoi, tu vois.
Ah oui.
Donc je trouvais ça bien pensé plutôt que de la voir disparaître et de pas savoir ce qu'elle est devenue. Enfin voilà quoi, c'est pour ça que je disais ça, mais y a plein de trucs, hein. Il y a aussi trauma
Voilà.
qu'on joue.
Et Trauma qui est tenté par un vieux de la vieille.
Bah par celui qui hante, justement.
Non, on dira pas son nom.
Bon, alors là,
Ah.
devinez qui c'est, hein. Oh là, le suspense est à son comble, là.
Ben voilà,
Voilà, bon,
peut-être qu'il y
enfin
a des gens
bref.
qui sauront pas, qui ne savent pas qui c'est, ou qui ne
Oui,
penseront pas à
d'accord.
lui.
Oui, non, bien sûr.
Donc voilà, en tout cas le retour d'un de ces personnages-là, et d'un de ces vieux personnages, et j'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça.
Enfin voilà, bon bah en tout cas un épisode très riche et toujours aussi bon. On a
Donc,
même un classement en fait des membres de l'initiative les plus populaires dressés par Osborn et enfin par le public, quoi. Et c'est assez surprenant d'ailleurs ce classement au début. Enfin voilà, donc il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'émotion, du suspense, enfin il y a tout.
non, franchement, c'est une série qui continue vraiment bien, et j'avais peur qu'avec le départ de Dan Slott et avec juste
Et
Christos Engage au scénario, ce soit un peu plus rentre dedans. Et c'est vrai que c'est le cas, mais il n'oublie pas pour autant les intrigues. Et ça, c'est
C'est une
vraiment
série qui
bien.
malheureusement va disparaître aussi.
Ouais. Comme Mighty.
Comme Mighty, ouais. De toute façon, c'est annoncé par Christian Grasse dans sa postface. Voilà.
Ok. Bah donc un Mac plutôt sympa quand même.
Ah oui, non, moi j'ai bien aimé. Un bon cru.
On passe au Dark Reign numéro 9. Le premier, c'est Dark Avengers numéro 8. Cinquième partie d'Utopia, scénario Matt Fraction, dessin Luc Ross, ancrage de Rick Meguiar, Mark Pennington et Luc Ross. Bon, bah.
Ah bah si quand même. Bah, je me
Ça
suis dit.
s'arrête, ça bouge beaucoup, quoi.
Oui voilà, enfin ça bouge, il se passe des choses, et on a la grosse révélation de ce crossover surtout dans cet épisode.
Ouais, mais c'est un des gros problèmes du crossover d'ailleurs, c'est son rythme, quoi. Parce que alors là, ça bouge tellement que ça aurait pu limite, vu le rythme précédent, tenir en deux parties, ça.
Bah au fait, j'ai eu un peu peur parce qu'à la lecture de cet épisode, il se passait rien jusqu'à la fin quand même. Faut dire que durant tout l'épisode, c'est encore de la baston Dark Avengers, Dark X-Men ou non, il y a X-Force aussi qui se rajoute à la mêlée, c'est surtout les X-Force. Mais voilà, donc je voyais pas trop où ça allait. Je me suis dit bon bah c'est encore de la baston entre des équipes. Et au fait, c'est vraiment à la fin où il y a ce coup de théâtre. On comprend ce qui se passe.
De toute façon, on va pas avoir le choix que d'en parler, on va aborder la dernière partie qui est publiée dans le X-Men, le magazine suivant. Donc on va être obligé de révéler.
Oui, bah enfin en gros les Dark Avengers d'Emma Frost, c'était un gros coup monté. Au fait, elle était en cheville avec Cyclope. Et à la fin, hormis Mimic et Omega truc là, je sais plus comment il s'appelle, Omega, non? Tout court.
Oméga, ouais, je crois, tout court.
Chez les Dark Avengers, au fait, tous les membres des Dark pardon, des Dark X-Men, tous les membres des Dark X-Men partent avec Emma Frost rejoindre les X-Men sur et bah au fait l'astéroïde M. Qui a
Voilà.
été repêché par Cyclope.
Pour moi, c'est ça la grosse révélation, c'est que c'est le retour de l'astéroïde M et c'est surtout la formation d'un nouvel état mutant
Voilà, ouais, une espèce de.
qui flotte au large des côtes de San Francisco et c'est un Genosha 2, quoi.
Ouais, enfin voilà, quoi, c'est un petit peu leur terre promise, quoi, on va dire.
Et
C'est
finalement,
l'endroit où ils se retirent pour vivre entre eux, quoi.
voilà,
Voilà.
donc finalement, c'est le rêve de Magneto qui revient. Ce qu'il avait fait quand il était chef de Genosha. Et là où c'est encore plus ironique, c'est que c'est sur l'astéroïde M, donc ni plus ni moins que la base de Magneto.
Ouais. L'ancienne base de Magneto qui était tombée à la flotte.
À la fin d'X-Men numéro 3. Enfin, volume
Ouais.
2, numéro 3. Et c'est là où c'est un drôle de retournement de situation, c'est que il condamne Magneto avec ce qu'il a fait, etc. Mais finalement, ils en viennent à faire ce que lui voulait depuis le début, c'est-à-dire faire un état mutant, puisque c'est pas possible de cohabiter avec les humains.
Enfin, cela dit, la situation a beaucoup changé depuis, a beaucoup évolué. Là, au fait, ils sont vraiment acculés. Alors qu'à l'époque, ils avaient vraiment le choix. Ils voulaient vivre en fait en coexistence avec les humains, quoi, en cohabitation pacifique. Et là, ils se rendent bien compte que ce sera jamais possible. Donc voilà. Puis en plus, ils sont tellement peu nombreux maintenant qu'autant qu'ils se rassemblent tous.
Bien sûr, mais bon, c'est ça qui me fait un peu rire, quoi.
Ah
C'est que
oui, bah bien sûr, non,
finalement,
mais
on
c'est
en revient à
ironique. Et
ça.
puis c'est voulu même, de toute façon.
Et donc, ça
C'est voulu.
montre à quel point Cyclope a changé,
Et ça
finalement.
montre aussi, oui, l'évolution de Cyclope, qui d'ailleurs peut-être même ne s'en rend pas compte, en fait. Parce que il y en a aucun, tu remarqueras, de personnages, ni Cyclope, ni personne d'autre, qui leur dit non mais attends, on fait exactement ce que voulait Magneto. Il n'y en
Oui,
a aucun
mais
qui fait allusion à ça pour le moment.
c'est pour le moment, oui. Je dis peut-être que dans les prochains épisodes,
Ouais, ben bah
on
voilà.
aura ça. Parce que là, bon, c'est en plein milieu d'un crossover, il peut pas se permettre, surtout qu'en plus on est dans un épisode de Dark Avengers, il peut pas vraiment se permettre de mettre en avant trop les X-Men, alors que c'est déjà le cas finalement, puisque.
D'ailleurs, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que Bendis n'aura pas du tout apporté sa patte à ce crossover. Et
Ben
en
moi j'en suis
plus,
plutôt content finalement, parce que comme ça reste entre les mains de Malfraction et voilà, c'est pas plus mal.
non, mais justement, ouais, mais Matt Fraction, comme il n'est pas sur sa série, en fait, ça a bouffé des épisodes de Dark Avengers, ce qui fait que Bendis, au final, aura écrit très peu les Dark Avengers, puisque bon, là, il va reprendre
Très peu,
et.
il y a juste deux épisodes de Dark Avengers qui font partie du crossover, c'est tout.
Oui, mais déjà, c'est pas long. Enfin, je veux dire, là, il y a peut-être 12 numéros de Dark Avengers, je sais plus.
16, en tout cas.
16, bon, d'accord, ok. Enfin, voilà, quoi. Bon, c'est pas non plus énorme, énorme, quoi. Donc, ça lui fait 14 épisodes, et en plus, on sait que Bendy, c'est très, très. Enfin, voilà, quoi. C'est très, très vaste, c'est très, très ample. Il nous fait des arcs en 6, donc.
Non, non, moi je suis vraiment content qu'il n'y ait pas participé parce que quand on regarde par exemple Secret Warriors dont on va parler tout à l'heure, où finalement il était co-scénariste avec Jonathan Hickman, ben voilà, si c'est pour avoir les mains liées ensuite dans X-Men, je trouve qu'il touche déjà à tellement de choses
Ben non, mais
avec les
ce que je veux
Avengers.
dire, c'est que, au fait, j'irais même plus loin, c'est même dommage d'avoir fait, de s'être servi de Dark Avengers pour placer ce truc-là, quoi. En fait, ils auraient pu faire des numéros, comme ils en ont fait ensuite, quoi, des numéros en plus, tu vois, X-Men, quoi. Parce que là, c'est vraiment du X-Men, quoi. Je reconnais pas du tout. Les Dark Avengers, finalement, ils font coucou 3 secondes, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais je
Enfin,
pense que
tu vois ce que je veux dire, quoi.
c'est
C'est.
aussi un moyen, c'était un moyen de faire vendre pas mal, puisque bah, on sait très bien, les X-Men sont quand même pas mal en perte de vitesse. Et faire un crossover avec un des titres qui vendait le mieux,
Non
c'était
mais
une
enfin
bonne
voilà quoi.
idée.
Non, ce que je dénonce là, c'est que c'est un faux crossover parce que le magazine s'appelle Dark Avengers et au final c'est les X-Men que tu lis. Les Dark Avengers, on les voit vraiment, franchement, on les voit sur 3 pages, je pense. Sans
Ouais,
déconner.
mais c'est. Enfin, moi ça me dérange pas, au contraire. Quand on a un épisode qui est pas trop mal comme ça me gêne pas.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu l'avoir en plus dans un genre un hors-série X-Men ou ce
Ouais,
que tu
enfin,
veux.
il y a déjà tellement de hors-séries à acheter que
Ouais, je sais,
finalement,
je sais.
que ce soit même
Mais
une série régulière, c'est pas plus mal, quoi.
et en même temps, sur les séries régulières, t'avais des épisodes inutiles, je trouve, au début d'Utopia. Donc en
Ouais.
fait, ils auraient pu réduire le début et foutre
Ah
ces
ça, par
parties-là.
contre, là, je suis d'accord avec toi. Là,
Tu
c'est en
vois ce que je
six
veux dire?
parties, ça aurait pu être en quatre, quoi.
Voilà, exactement. Ça aurait pu être en 4 dans les magazines X-Men et laisser Dark Avengers aux mains de Bendis avec un tout autre truc, qui soit pas Utopia.
Ouais.
Enfin bon.
Un seul truc, moi, vraiment, que je trouve atroce, c'est le fameux drapeau mutant, quoi. Je le trouve horrible. Une
Je l'ai
espèce
même
de
pas vu ça,
grand
moi-même.
drapeau blanc avec juste un X rouge au milieu.
Ouais, bah, je
C'est
sais pas,
vraiment très moche.
ils avaient pas Photoshop à dispo, ils se sont dit
Non,
bon,
mais c'est affreux, quoi. C'est vraiment affreux.
on va vite faire un truc.
Voilà. Et puis, sinon, ce qu'on a oublié, c'est Danny Moustard qui fait un pacte avec Ella. À voir quel pacte ça va être et
Ah oui, c'est
ce que
vrai,
ça va
ouais.
lui coûter. On verra ça dans les prochains épisodes. On passe à la suite, c'est Secret Warriors numéro 7, scénario de Jonathan Hickman, enfin tout seul sur la série, et dessin et ancrage d'Alessandro Vitti. Ben, ça commence sur une grosse attaque de banque, et au début je me suis dit, bon c'est pas possible, c'est des clones, et non, ce sont bien les Secret Warriors et Nick Fury qui attaquent une banque.
Oui, mais c'est une banque,
Mais voilà, on apprend
voilà.
au bout de quelques pages que c'est en fait une banque qui appartient à l'Hydra, donc c'est
Ouais.
pas voilà. Mais
Enfin, je m'en doutais un peu hein, quand j'ai vu Nick Fury débarquer.
au début, je me suis dit bon, c'est un rêve ou je sais pas, c'est des clones. Vraiment, c'est quelqu'un qui essaye de se faire passer pour eux pour les descendre médiatiquement quoi. Et en fait, non, c'est vraiment eux. Et c'est quand on a cette explication de l'Hydra, je me suis dit ah d'accord, parce que là, je commençais à me demander où ça partait. Et finalement, ils prennent 1,2 milliard pour financer les opérations en laissant une note. Au baron Stoker en disant voilà, je te dois 1,2 million. 1,2 milliard, pardon.
Ouais. Et puis surtout, la seconde intrigue, c'est au fait le fait que Nick Fury vient porter main forte à Natasha, Black Widow, Songbird.
Oui, enfin, t'as quand même oublié dans le truc, c'est qu'il y a quand même Osborne et Stoker qui font un deal.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Voilà.
Oui, effectivement. Ils font un deal, Stoker lui demande demande à Osborne au fait d'éliminer Nick Fury. C'est d'ailleurs un petit peu au fait ce qu'on voit dans The List.
Voilà, ça c'est ce qui se passe un petit peu avant The List en
Voilà.
fait. Et du coup, Osborne en profite pour lui révéler qu'il a tué ses deux enfants. Et donc du coup, il lui dit, bon bah pour la peine, tu me dois
Ah
200 milliards.
oui, ça c'est énorme. Ça c'est énorme, ça c'est énorme. Et effectivement, on pourrait penser l'inverse, qui va être furieux et au fait pas du tout, il remercie, il lui dit même qu'il lui doit deux services au fait. Oui, effectivement. Oui, non, ça c'était très bon. La vanne était bien bien sentie, bien amenée.
Donc oui, après, donc comme tu disais, il y a ce fameux sauvetage de Fury. À se demander si c'est bien Fury, puisque finalement le message a été hacké par Phobos, et puis ah,
Moi j'ai
j'avais
pas
juré que je
douté au
lirais
début.
pas son nom, mais voilà.
J'ai pas douté de que ce soit lui quand je l'ai vu arriver bizarrement, mais c'est vrai que faut toujours se méfier. Surtout qu'il y a toujours des clones, quoi, des robots de Fury qui se baladent.
Donc
Et puis
voilà.
bon bah. Ouais.
C'est à suivre surtout dans l'épisode d'après, hein, le Thunderbolt
Oui,
135.
alors petite bourde de Panini France, c'est-à-dire qu'ils ont mis à suivre le mois prochain à la fin de l'épisode. Donc quand j'ai terminé cet épisode, je me suis dit bah c'est bizarre parce que l'épisode suivant, donc des Thunderbolts, commence avant en fait celui-là, la fin de celui-là. Donc voilà quoi, je me suis dit comment ça se fait qu'on n'ait pas la fin, qu'on n'ait pas la suite, ou au moins un truc parallèle à côté. Et au fait, c'est pas vraiment la suite au prochain numéro, quoi. C'est vraiment en fait l'épisode de Thunderbolts fait écho à celui-là, quoi.
Oui, puisque de toute façon, c'était bien marqué à la fin de la VO, à suivre dans Thunderbolts numéro 135.
Voilà.
Voilà. Donc bon. Thunderbolts numéro 135, justement, qui est scénarisé par Andy Diggle, dessin et ancrage de Miguel Sepulveda.
Où on assiste déjà à ce qui s'est passé juste avant, en fait, oui. La fuite de Songbeard et la Veuve Noire, face à des membres des Thunderbolts.
Qui lui avait révélé sa vraie identité dans le dernier épisode.
Voilà.
Et puis, ils sont pourchassés par le reste des Thunderbolts, et notamment Mister X.
Et notamment Mister X, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait que Ghost les aide, finalement.
Oui.
Un peu contre son plein gré, mais bon, on sent qu'il est peut-être pas aussi pourri que les autres, quoi.
Voilà. Et puis, le fameux Scourge qui est le nouveau
Jason, le mort-vivant.
Le nouveau chef d'équipe qui dit à tout le monde de ne pas attaquer parce qu'il a un plan. Effectivement, son plan, c'est d'avoir envoyé Ant-Man réduit les suivre à distance pour pouvoir savoir à quel endroit elles allaient plutôt.
Oui. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin de l'épisode.
On retrouve la même scène, en fait, hein, voilà. qu'on avait vu à la fin de Secret Warriors sur une ou deux pages, je sais plus.
Ouais.
Et puis alors, c'est la même scène, mot pour mot, juste redessinée.
Voilà. Mais c'est bien. Moi, je trouve, j'aime bien ce principe parce que c'est quand même.
Les dialogues n'ont pas changé.
C'est raccord, quoi, au moins.
Voilà, exactement. On peut pas faire plus raccord puisque c'est exactement la même scène. C'est juste redessiné. Donc bon, c'est très bien.
Pourquoi pas. Et donc ensuite, on a la suite, surtout. Ça se termine mal, quoi.
Oui, puisqu'ils se font capturer et.
Ils se font capturer, et puis alors, ce que j'ai trouvé énorme, alors ça, je l'ai pas du tout vu venir. On me le dit ou pas?
Oui, je mettrai un petit spoiler.
C'est-à-dire que Osborn révèle surtout que.
Le fait que Black Widow soit de l'équipe, enfin Black Widow numéro 2 soit dans l'équipe, et il savait déjà depuis le départ que c'était.
Que c'était Natasha, ouais.
Et donc il révèle surtout qu'elle s'est infiltrée dans l'équipe parce qu'il l'a bien voulu, puisqu'il avait piraté toutes les transmissions et elle qui croyait parler à Nick Fury, en fait, parlait à Osborn.
Ouais, ça franchement, autant que la Black Widow numéro 2 ce soit pas la vraie, je m'y attendais un peu. Bon, déjà que ce soit Natasha, je m'y attendais pas, c'est vrai, mais qu'en plus que ce soit un coup monté d'Osborn, franchement là vraiment vraiment surprise, quoi.
Le petit point négatif de ce numéro, hormis la fin qui pour moi est évidente, les raisons que j'ai abordées tout à l'heure là.
Moi aussi, quoi. Pour moi c'est.
Et puis c'est aussi pour le fait qu'on ait lu Secret Warriors The List, hein, qui est censé se passer juste avant le 9, donc après celui-ci.
Oui. Oui, c'est vrai.
Enfin, après le 8, qui est la suite en fait de Thunderbolts numéro 135, ce sont les dessins. Les dessins, je les trouve super inégaux. D'une case à l'autre, je sais pas si c'est vraiment qu'il a dû se rusher pour terminer l'épisode à l'heure, mais les visages d'une case à l'autre sont pas beaux, il y a des fonds. T'as l'impression qu'on a collé les visages sur le fond sans prendre le temps de bien les détourer, enfin c'est vraiment bizarre.
Ouais, c'est-à-dire que par exemple Norman a la tête d'un mec d'une cinquantaine d'années, quoi, sur des cases. Et puis ensuite, par exemple, il y en a une où il a une tête d'un jeune asiatique. Donc voilà, quoi, c'est bizarre, oui, effectivement. C'est le point négatif, mais enfin, grosso modo, c'est toujours très très bon.
Ah oui, non, par contre, l'histoire est très très bonne, hein. Ça, il n'y a pas de souci.
C'est vraiment les deux séries qui portent le Mac, je dirais. Thunderbolts, c'est.
En ce moment, ouais. En ce moment, ouais. Parce qu'avec Utopia, c'est normal. Bon. La suite le mois prochain dans Secret Warriors numéro 8. Et on verra si ça continue. Je crois que ça va continuer aussi dans le Thunderbolts 136 et ça devrait être la fin de cet arc-là, de mémoire. Dernier épisode du Mac, c'est le Dark Reign Fantastic Four numéro 4. Scénario de Jonathan Hickman, dessin de Sean Chen et ancrage de Lorenzo Ruggiero. Donc c'est l'avant-dernière partie de la mini-série. Osborn donc débarque et Franklin et Valeria gagnent un peu de temps et ça m'a fait un petit peu rire la façon dont c'est fait, quoi. J'ai beaucoup aimé Valeria déguisée en avocate avec des lunettes qui tend des papiers Lego.
Mais moi j'ai trouvé ça vraiment excellent, cet épisode.
Ah ouais, vraiment.
Excellent, d'ailleurs plus court à lire que les précédentes parties.
Beaucoup de double pages aussi.
beaucoup de double pages, mais en fait on comprend vraiment bah en fait depuis la dernière partie on comprend vraiment où ça va. Et là il y a ce côté effectivement maman j'ai raté l'avion avec les enfants des Fantastic Four qui se retrouvent face à Norman Osborn qui est vraiment marrant quoi, qui est vraiment bien trouvé.
Ouais.
C'est vraiment une situation qu'on n'aurait pas pensé voir il y a quelques mois et qui est vraiment hilarante quoi.
Pour moi, c'est la meilleure partie de l'épisode parce qu'ensuite on a Reed qui comprend que finalement pour que ça dérape pas le meilleur moyen c'est de s'écouter que lui-même et pas écouter les autres. Donc
Ouais.
chose qu'il avait déjà dit dans l'épisode 2, je crois. Donc
Ouais, ouais, ouais. Et puis finalement, on se dit quoi, tout ça pour ça, quoi, en fait. Tous
bah
ces
voilà.
voyages dans le temps, dans les trois premières parties.
Exactement. Et puis on n'a pas réellement de réponse sur pourquoi
Non. Et
les FF ont voyagé.
Ouais, voilà. Je pense qu'on en aura pas malheureusement parce que la dernière partie, je crois que c'est la prochaine.
Ouais, à moins qu'il nous détaille, qu'il nous termine rapidement l'histoire avec Norman, et qu'il nous détaille dans la fin du numéro 5, pourquoi ils ont voyagé, qu'ils
Ouais.
se racontent leurs aventures, respectives.
Effectivement, mais ça risque fort d'être simplement Fantastic Four versus Norman Osborn, quoi.
Voilà. Voilà. Donc bien sûr, en stoppant cette fameuse invention, les trois fantastiques reviennent dans le monde réel et puis du coup décident de se dresser face à Norman pour pas qu'ils touchent leurs enfants parce qu'ils leur tirent dessus comme avec un flingue hein, sur des gamins.
Ouais. Non, enfin c'est vraiment très drôle, c'est vraiment marrant. Mais so far, comme diraient les Américains, c'est ma partie préférée de cet arc, quoi. Enfin pas de cet arc, de cette mini.
Bah, on verra le mois prochain la fin du coup de la mini. Mais
Enfin,
en
pour
tout
le
cas,
moment, c'est rare que au début j'accroche pas du tout et que au fur et à mesure je rentre dedans de plus en plus. Et là, vraiment, je trouve ça de très plaisant, de plus en plus plaisant à lire cette mini-série. Alors qu'au début, c'était vraiment pas gagné, hein. Tu te rappelles que
ouais.
j'étais pas conquis.
En tout cas, ce que je trouve bien, c'est que cette mini-série aura au moins la possibilité pour Jonathan Hickman de se faire vraiment la main sur les personnages. Et franchement, il les tient vraiment bien. C'est ce que je dis depuis le début, mais il les tient vraiment bien. Et j'ai
Oui, bah
hâte d'entamer
ça se
son
voit
run.
surtout, au fait, je trouve, dans la scène avec les gosses, quoi. D'habitude, moi, ça me saoule les scènes avec les enfants. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça marrant.
Ah, puis même la scène de réunion entre Reed et Sue, enfin et Jane, quand ils se retrouvent après qu'il ait éteint la machine. Enfin voilà, il a les personnages. À voir maintenant ce que ça va donner sur le prochain numéro, puisque bah là on les verra enfin tous les quatre agir ensemble. On verra bien si les a bien ou pas. Mais non, pour moi, j'ai vraiment hâte que Millar s'en aille et qu'on entame le run de Jonathan Hickman sur la série régulière. En tout cas, ça m'a juste mis l'eau à la bouche pour la suite.
Bah écoute, très bien. Et
Oh, pardon,
rien du tout, la suite.
Ok, donc on passe maintenant au X-Men numéro 161. Fin du crossover Utopia avec ce premier épisode, c'est le Dark Avengers X-Men Exodus. Scénario de Matt Fraction, dessin de Mike Deodato et Terry Dodson, avec ancrage de Mike Deodato sur ses parties et Rachel Dodson sur les parties de Terry. Enfin, sur les parties dessinées. Hein. Quoique
Voilà.
c'est sa femme, elle peut dessiner sur ses parties si elle veut. Elle a le droit.
Oula, les jeux de mots.
Ouais, je sais, c'est.
Tu t'as fait exprès?
Oui, mais alors c'est. Voilà. Bon, c'est pas grave. On enchaîne. Bah, en fait, moi, je me suis laissé avoir déjà par le titre. Parce qu'avec Dark Avengers X-Men Exodus, je m'attendais à l'arrivée d'Exodus, le personnage. Alors qu'en fait, il n'en est rien du tout.
Ah d'accord. Ah non mais moi j'ai pas du tout pensé à ce personnage-là. D'ailleurs en plus
Bah
je me
vu qu'on
dis
l'avait revu dans les pages de Legacy il n'y a pas longtemps, je me suis
oui,
dit il va arriver, c'est
c'est
lui
pas le
qui
plus
va.
charismatique et le plus passionnant quoi.
Non mais bon, vu que Xavier lui avait dit de choisir son camp, etc., je me suis dit il va arriver et puis il va mettre un terme au truc, et en fait pas du tout. Donc plus le nombre de pages diminuait, enfin le nombre de pages restantes à lire pour moi diminuait, plus je me disais bon bah il n'y a aucune chance qu'il arrive, quoi. Et
Non, c'est
effectivement, il
juste
arrive pas.
l'exode des mutants sur
Voilà,
cette île.
c'était Exode, quoi, et pas
Voilà.
Exodus le
Voilà.
personnage.
Et comme
Bon.
je te disais tout à l'heure, d'ailleurs, ils auraient pu faire, au lieu de monopoliser Dark Avengers, ils auraient pu faire des hors-séries comme celui-là, quoi. Ou mettre dans les séries régulières, puisqu'il y a eu des épisodes vraiment bouche-trou avant.
Ouais
Alors
mais
que là, enfin, ça bouge, quoi.
non en fait parce que les hors-séries sont à 4,99 et voilà quoi.
Non, mais d'accord, mais si t'avais mis ça dans les séries régulières, au lieu de mettre des épisodes, tu sais, où il se passait rien, quoi. Concrètement, dans Uncanny et dans X-Men Legacy, il se passait rien.
Bah, pour moi, 4 épisodes seulement, un Uncanny, un Dark X-Men et encore un Uncanny, un Dark X-Men, et c'était bon, ça pouvait
Ben
se
voilà,
régler.
exactement.
Mais dans les séries régulières, moi ça m'allait très bien, quoi.
Exactement, voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça en plus. Ça aurait pu tenir. Bref, là, grosso modo,
pas grand chose, hein,
c'est.
Ouais. Hein? Pas grand chose à dire. Hein.
Bah, non, mais c'est surtout la baston, la grosse bataille finale, comme à la fin d'un film, entre les Dark Avengers et puis le reste des X-Men qui est sur cette île. C'est quand même une bonne baston, moi j'ai bien aimé quand même. Enfin voilà quoi, il y a des bastons décevantes, mais celle-là elle m'a pas déçu. Au contraire même, elle m'a fait un petit peu plus apprécier le crossover.
Ouais, ça pète de partout. Ils se partagent un petit peu les Dark Avengers. Voilà. Moi, le seul truc que je pourrais reprocher à cette baston, c'est Cyclope qui se prend une branlée sans réagir.
Ouais, bon, enfin en même temps, ça fera plaisir à certains.
Bah, il se laisse en fait, il se laisse complètement frapper, quoi.
Oui.
Alors, est-ce que c'est parce que toute la baston est filmée? Mais j'ai pas l'impression que les caméras soient là dès le début, donc voilà. Je comprends pas trop pourquoi il s'est laissé volontairement défoncer par Norman.
Ouais, effectivement, Cyclope se fait exploser comme une merde, quoi, en fait. Mais au-delà de ça, il y a des scènes sympas, il y a Sentry. Moi, j'ai bien aimé. En fait, franchement,
Bah,
cette
on a un
baston,
retour
c'est plaisant.
à ce qu'avait fait Bendis avec son arc sur Sentry, avec cette fameuse salle blanche et Emma Frost. Bon, voilà, bon, il y a pas mal d'idées qui sont réexploitées. Et voilà, il laisse pas de côté toute la continuité. Au contraire, il s'en sert pour faire avancer un petit peu son histoire. Quoique, bon, après,
Bon, par
voilà.
contre, la fin de cette baston un peu convenue, hein, toujours pareil au fait. C'est-à-dire que Norman Osborn se rend compte que il peut plus agir parce que bah il y a les caméras et du coup pour faire bonne figure, il se retire.
Voilà, mais bon, finalement, le speech de Cyclope à la fin sur oui, on déclare notre indépendance, on va être tranquille, foutez-nous la paix, voilà. Bah, il l'avait déjà fait dans Dark Avengers, ce speech-là quasiment. Donc c'est un peu de la redite, quoi. Donc pour moi, le speech final tombe un peu à l'eau puisque c'était déjà ce qui avait poussé Norman à agir.
Non, mais le speech final, c'est surtout celui de Norman qui dit bah voilà, on a réussi à les repousser, maintenant ils sont sur leur petite île et on a gagné, quoi, en gros.
Ah,
Au
ça
fait,
y est,
il
parasite
essaie
de
de tout retourner à
terroriste,
son
quoi.
avantage.
Ouais, bah, comme d'hab, quoi. Bon, moi, j'ai plus d'attente pour la suite, en fait, ce que ça va changer au niveau des X-Men, le fait qu'ils se retrouvent là-bas. Mais
Non,
voilà,
enfin
c'est
voilà
tout.
quoi. Utopia, en gros, ça commençait très mal pour moi et je trouvais ça, il se passait rien, quoi. Je trouvais ça du déjà vu. Et ça se termine sur un truc intéressant. Qui
Moi,
pourrait l'être.
je suis plus mitigé. Pour moi, la seule chose intéressante, c'est bah, c'est cette nouvelle nation mutante, quoi.
Oui,
C'est
bah,
tout.
c'est ce que je dis, oui, non, mais c'est ça. Hein. C'est ce que je veux dire, quoi. Ça se termine sur un truc qui pourrait être intéressant avec Nation X, quoi. Nation X.
À voir comment ce sera amené par la suite. Bon, pas grand chose de plus à en dire, on passe à la suite. C'est Dark X-Men The Confession, scénario de Craig Kyle et Chris Yost, dessin de Bing Cansino et ancrage de Roland Paris. Bon, alors là, ça pour moi c'est vraiment un épisode de merde. Je vais être honnête. Je me suis profondément fait chier, mais alors profondément fait chier. J'ai l'impression d'avoir relu les X-Men là depuis 3 ans. Non, peut-être pas 3 ans. Depuis la fin de Messiah Complex. Voilà. Emma et Scott se disputent. Oh là là, on a trop de secrets. En fait, déjà, ça c'est censé se passer avant la toute première partie d'Utopia.
Ouais, mais ça a été publié comme ça, comme le justifie Panini d'ailleurs, à juste titre, pour une fois, puisque c'est vrai que ça a été publié tel quel.
Oui, c'est comme ça. Et c'était pour pas nous révéler que en fait Scott était au courant de l'histoire avec Emma pour que ça fasse le joli retournement de situation qu'on a eu dans Dark Avengers. Bon, moi franchement non, voilà, c'est vraiment, ça finit en tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on vit à Bisounoursland, voilà.
Bah, au moins Emma lui révèle son implication dans la cabale, etc. quoi. Donc il y a quand même elle lui
Enfin
fait
bon,
quand même des révélations.
ce qu'on savait déjà puisque c'est ce qui était dit dans Dark Avengers 8, finalement,
Que Cyclope savait.
qu'il était au courant. Bah oui, voilà, donc
Ouais. Mais non, mais enfin
non.
bon, moi j'ai trouvé l'explication et leur discussion assez bien écrite. J'aime bien. Je suis de plus en plus comment dire impressionné par le travail de Chris Yost et Kyle. Et Greg Kyle, je crois que c'est l'inverse, je sais plus.
Craig
Je sais
Kyle et
jamais.
Chris Yost. Voilà.
Voilà, parce que au début, c'est vrai qu'on leur donnait pas beaucoup de crédit. Enfin, c'est pas nous forcément, mais c'est pas mal de lecteurs. Et non, moi, je suis assez fan de ce qu'ils font et je trouve qu'ils tiennent vraiment bien les mutants. Voilà. Non, moi, j'ai trouvé ça plaisant à lire. Pour une fois, je l'ai trouvé assez Bah c'est assez complète quoi, Emma Frost, tu vois, d'habitude je la vois plus superficielle que ça, et là non.
Bah, moi, ce qui me gêne, franchement, c'est le côté, on n'a plus de secret et tout. Ah, ok, ils ont mis les choses à plat, d'accord. On n'a plus de secret pour combien de temps, quoi?
Oui, non,
Attends,
bien
c'est au moins
sûr,
la
c'est un
cinquième fois
prétexte.
qu'ils nous font
Non
le
mais au
coup
fait
de j'ai des secrets.
c'est l'orage avant, enfin c'est pas l'orage avant la tempête, mais c'est le calme plutôt avant la tempête, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et aussi d'ailleurs on remarquera cette très belle pleine page avec Emma et Cyclope enlacés et Cyclope qui est en calbut et en chaussons, c'est formidable.
Ouais. Non, franchement, moi, super déçu par ce numéro, quoi. Un numéro qui vraiment ne sert à rien puisqu'on avait déjà tout compris. Donc voilà. Enfin bon, c'est
Ouais,
pas.
enfin bon, c'est sûr qu'aux États-Unis, s'il eût été, je sais pas combien il était ce numéro-là, mais
3,99.
ouais, enfin voilà. Bon, et évidemment là, ouais, j'aurais tiré la tronche.
Et surtout qu'il n'y a rien en plus, hein. C'est vraiment un épisode de 22 pages.
Ah non non, oui là effectivement, mais là dans le mensuel, bon, je veux dire, je préfère encore lire ça, tu vois, que lire des épisodes bonus tirés de je ne sais quoi qui font 3-4 pages et qui vraiment n'apportent rien, quoi.
Bah, pour moi, c'est la même chose, mais en 22 pages, ça n'apporte rien. Ça aurait pu être réduit
Ça
en 3
apporte
pages.
un petit une petite voilà un petit point dans ce couple qui c'est vrai que bon ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus avoir une discussion franche et
Ouais, ok. Chacun ses goûts, hein, comme on dit.
bon.
Moi, je sais que non, ça passe pas. On passe à la suite, c'est le X-Men Legacy Annual numéro 1. Alors, c'est pas la grosse histoire de l'annual, c'est la petite histoire bonus sur Gambit. Le scénario de Mike Carey, les dessins sont de Mirko Pierfederici et l'ancrage d'Ed Tadeo.
Ouais.
Bon, c'est vraiment une petite histoire. Honnêtement, je trouvais ça plutôt bof, les dessins plutôt moyens, jusqu'à cette espèce de révélation.
Bah, en fait, c'est pas vraiment une révélation, c'est ce que je te disais il y a quelques mois. Souviens-toi, ou enfin, souviens-t'en pas, je ne sais pas. Mais je te disais que c'est très bizarre parce que Gambit, il est revenu dans les pages de X-Men Legacy sous son apparence normale, alors que la dernière fois qu'on l'avait vu auparavant, il était un nouveau cavalier d'Apocalypse.
Et moi j'avais pas lu cette époque-là, donc pour moi c'était une
Voilà.
révélation en tout cas. Mais bon voilà, donc il n'a pas oublié ses pouvoirs, enfin il a toujours ces espèces de pouvoirs qu'il
Voilà,
ne maîtrise pas.
ce qui est logique et ce qui est c'est très bien de le remettre sur le tapis parce que je me posais sérieusement la question de savoir pourquoi on n'en parlait plus, quoi.
Mais à mon avis, Mike Carey va s'y intéresser d'ici bientôt, puisque de toute façon c'est déjà. Ce qui est bien, c'est que c'est lui qui a écrit aussi cette petite histoire. Donc
Ah
voilà,
oui.
comme il reste sur le titre pendant encore très longtemps.
Tant mieux, parce que c'est un féru de continuité et il l'utilise à bon escient, donc
Ouais.
voilà.
L'histoire principale, en fait, le but de cette escapade de Rémi, c'était qu'il avait été envoyé par Cyclope pour détruire la fameuse Omega Machine qui permet d'enlever les pouvoirs que Dark Beast avait créés.
Mais
Donc.
ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on voit que Gambit, en 6 pages, il a 10 fois plus de classe que Cyclope en 40 pages qu'on le voit, enfin
Ça a
même
toujours été le cas.
60 pages en... Oui, bien sûr, bien sûr.
Et
Et
puis
puis
bon.
maintenant qu'on l'a vu en slibard et en chaussons, ça va être dur de remonter
Et puis
en cote de
bon.
popularité.
Petite chose qui pour les gens qui, comme moi, aiment bien Gambit, c'est bien Rémi Lebeau, hein, pas Rémi Picard. Voilà.
Ah oui, non mais ça c'est sûr, dans
Il
les pages.
fallait que je le précise.
Ouais.
C'était contractuel, c'est pour ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Ah oui, non
Franchement.
mais voilà, de toute façon, X-Men Legacy. C'est toujours bon, quoi.
Bon, on n'a pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, le truc fait 10 pages, donc voilà, c'est vite expédié. Mais bon, ça a le mérite de remettre les choses sur le devant de la scène. Ça, c'est bien. New Mutants numéro 4 pour terminer le mag. Dernière partie du retour de Légion. Scénario Zeb Wells. Dessin de Johnny Gisley.
Diogenes Nivez.
Merci, putain. À lui, à chaque fois, je vais buter. C'est obligé. Ancrage de Cam Smith, Ed Tadeo et Craig Young. Donc, bah, c'est la fin de l'arc. Bah, comme souvent, hein, c'est de la grosse baston, et je trouve que c'est hyper violent, par contre. La baston est
Ouais
hyper
bah
violente.
comme depuis le début hein, je t'ai dit c'est super sombre, super violent,
Ouais.
super gore, super malsain, puisqu'il y a cette espèce d'univers torturé, ces personnalités au fait dans la tête de Légion, et non pas
Donc.
la Légion, parce que je sais pas pourquoi, mais en français ils ont traduit par le retour de la Légion. On n'est pas dans le DC Universe, ce n'est pas la Légion, c'est Légion qui s'appelle tout
Oui,
simplement.
de Légion.
Voilà. Et ils ont pas arrêté de mettre la Légion partout.
Il y a des petits trucs qu'on comprend un petit peu mieux, même si on s'en doutait, là au moins c'est clairement expliqué. Par exemple, cette poupée qui est recherchée, qui en fait permet de contrôler réellement le corps de Légion. Ça, c'est vraiment expliqué. D'ailleurs, la poupée qui s'appelle Moira. J'ai trouvé ça, voilà, sympathique. En mémoire à sa mère, donc voilà. On avait Karma et puis la gamine qui était enfermée, comme David en fait, qui était lui aussi enfermé et mis de côté pour pas pouvoir sortir de cette pièce et pour pouvoir accéder à cette poupée. Bon, voilà, tout le monde est sauvé. Voilà, c'est. Mais bon, c'est quand même méchant. Ça, ils finissent
Alors on
tous
a
dans un sale
l'impression que
état,
c'est
quoi.
un traitement de choc d'une bande de gamins en psychiatrie. Enfin voilà quoi, c'est quand même une bande d'allumés quoi, les New Mutants, on se rend compte.
Et puis on a le retour, enfin on a l'arrivée en fait des X-Men à la fin qui viennent un petit peu après la bataille.
Ouais,
Et
okay, oui. Et puis alors la note finale, c'est au fait Rocket qui dit ah j'ai l'impression que mon équipe ne m'apprécie pas tellement, et en gros Cyclope qui lui dit bah bienvenue au club.
voilà, c'est
Donc
ça.
voilà, au moins, tu vois, ça se termine sur une note de lucidité de la part de Cyclope. Après tant de pages où je te disais que le mec nous saoulait un peu avec ses histoires et avec ses introspections à la mort moelle-neuve, bah là enfin il se rend compte que bah en gros c'est un boulet et que son équipe ne le supporte pas.
Au prochain numéro, la suite, c'est le retour de Warlock.
Ah oui,
Donc,
puisqu'on a vu le retour de Légion, c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu Warlock.
et voilà, donc c'est vraiment le retour des New Mutants de la grande époque. Donc
De la
voilà,
grande
là.
époque, mais par contre, c'est vrai que c'est difficile de s'amouracher de ces personnages, puisqu'ils sont vraiment très 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 complexes et très très sombres, comme tu le dis, hein. C'est pas une série c'est pas une série joyeuse, quoi. C'est pas pour les enfants, quoi.
Ouais, et puis Zebwells utilise vraiment la continuité des nouveaux mutants, donc c'est vrai que ça peut paraître obscur pour les gens qui connaissent pas du tout, quoi.
J'aurais bien vu Warren Ellis écrire cette série, tiens, maintenant que j'y pense.
Bah, si c'est pour nous faire ce qu'il a fait sur Astonishing, c'est pas la peine.
Non, 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 mais
Ça,
ce
c'est
qu'il a
dit.
fait sur Thunderbolts, plutôt, tu vois.
Ah oui, là par contre,
Des
je dis pas.
personnages vraiment torturés comme les New Mutants, ça aurait pu rendre quelque chose d'intéressant.
Je dis pas,
Bref, un jour peut-être.
ouais. Moi j'ai balancé ma vanne, donc comme ça c'est réglé.
Ah, j'ai même pas entendu, dis donc.
Non mais je disais simplement pas sur les ce qu'il a fait sur Astonishing X-Men parce que j'ai
Oh,
détesté.
ouais.
Voilà, ça c'est dit, voilà, trop tard. Ok, bon bah c'est tout pour X-Men. On passe au dernier kiosque que l'on va traiter cette quinzaine, c'est le Astonishing X-Men numéro 61. On continue le crossover Messiah War avec X-Force numéro 15, Chris Kyle et Craig Yost au scénario, Clayton Crane au dessin. C'est la cinquième partie. On va, ouais, puis il y a la, on va passer, enfin, je vais tout de suite annoncer le câble, on va traiter les deux ensemble,
Ouais,
hein,
voilà, ça vaut mieux,
qui
c'est
est la
plus
partie
simple.
6, donc c'est le câble volume 2, numéro 15, scénario de Dwayne Swarzynski et dessin d'Ariel Olivetti. Donc déjà, ce qui peut choquer entre les deux parties, c'est la différence de dessin, qui est encore plus prononcée, je trouve, là, que dans les parties précédentes. Autant dans X-Force, c'est hyper sombre, c'est noir, on voit rien, il y a très très peu de décors, tout est dans le noir. Autant dès qu'on passe avec Ariel Olivetti, c'est super clair, on a l'impression
Voilà,
que
là
c'est en
ils ont
plein
sorti les lampes
jour.
halogènes, ils les ont braquées sur leur face.
Ah ouais, non, mais c'est impressionnant, quoi, même dans les décors.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, bon, ils ont un style un petit peu, je dirais pas photoréaliste, mais non, plutôt, tu vois, perso en image de synthèse, plutôt personnage
Ah
de
bah de toute
jeu vidéo.
façon, tous les deux travaillent vachement avec Photoshop, hein, ça se voit.
Ouais, mais dans tous les cas, au début, j'avais du mal avec le style du premier là.
Kevin Crane.
Voilà. Et finalement, je m'y suis fait quoi avec X-Force.
Bah tu vois, par contre, sur celui-ci, moi, non.
C'est vrai qu'il était plus sombre et on sent qu'il l'a vite expédié celui-là, j'ai
Je
l'impression.
sais pas si c'est qu'il manque un peu d'ancrage ou quoi que ce soit, mais il y a des moments le fond se confond avec le dessin lui-même et ça paraît des couleurs, tu sais, qui bavent un peu
Oui, qui
et
bat, ouais, exactement. Ouais.
ça donne un aspect vraiment franchement dégueulasse. Sur certaines cases, c'est carrément dégueulasse.
Ouais,
Je vais
j'ai eu
t'avouer.
cette impression effectivement d'un peu de travail bâclé ou vite fait parce que il devait tenir l'échéance. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'espère que la prochaine partie sera meilleure.
On verra.
Alors,
Bah, pour le X-Force,
hormis
moi j'ai trouvé que ça traînait un peu.
bah, au fait sur les deux parties, j'ai trouvé que c'était une grosse baisse de tension et une vraiment là c'est les deux parties peut-être de trop. Peut-être ça aurait été en 6, ça aurait été pas plus mal. Parce que là, grosso modo, ce mois-ci, Messiah War, jusque-là, j'avais bien aimé, mais là, il se passe quasiment rien. Il y a juste une confrontation la confrontation avec Strife, quoi, au début qui affronte Bishop, puis ensuite Cable.
Oui, puis Protstar aussi entre temps, mais
oui, ouais, puis Protstar, puis il essaye de
Wolverine, Elixir, enfin
d'éliminer Hope, puis finalement il n'y arrive pas. Hope comprend très vite d'ailleurs que c'est pas son père, donc finalement ils ont pas beaucoup joué sur cette espèce d'impression quoi qu'elle
non,
avait.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ils auraient pu y jouer un peu plus, bon, finalement.
Ouais, voilà, puisque bon, bah, très très vite, de toute façon, Strife joue son rôle de gros enculé, donc elle se dit, bah non, c'est pas lui. Franchement, se souvenir d'un truc, qu'est-ce qui évolue? Bah oui, enfin, il y a le retour d'Apocalypse, surtout. Finalement,
ouais.
Archangel fait un petit peu machine arrière, et l'aide, quoi, à reprendre sa vitalité, sa force.
De manière à montrer qu'il n'est pas à son service, puisqu'il lui demandait de le tuer, il n'est pas à son service. Et donc, puisqu'il lui a demandé de le tuer.
Ça, je trouve ça vraiment bidon comme truc, parce que regarde, t'es face à ton ennemi, il dit ah, tiens, t'as qu'à me tuer, et puis comme ça, tu feras ce que je demande, et puis alors après, tu vas faire ah, bah non, tiens, pour pas te faire plaisir, bah, je vais pas te tuer, tiens, je vais même te ressusciter, tiens, je vais même te redonner ma force, tiens, tu t'attendais pas à ça. Et puis, enfin, tu vois, c'est...
Ouais, il le regrette, hein, vers la fin d'ailleurs, il commence à le regretter.
Bah oui, mais c'est tellement prévisible qu'il allait le regretter en plus.
Ah, chose intéressante, c'est que on apprend que la base de Strife n'est ni plus ni moins que Ship, le vaisseau qu'avait X-Factor à ses débuts, puis ensuite que Cable avait.
Mm-hmm.
Donc ça, voilà, un petit lien avec la.
Un petit clin d'œil, ouais.
Ça, c'est sympathique. Après, bon, il y a la fameuse scène de baston entre Deadpool et Strife.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est assez drôle.
Une espèce de grosse arme, une espèce de lance-roquette laser ou je sais pas trop quoi, qui fait tomber Strife d'une plateforme, alors dans un truc à la Star Wars.
Ouais.
J'ai vraiment l'impression de revoir Star Wars.
Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais il y a quelques clins d'œil marrants, puis surtout quand il y a Deadpool, de toute façon, on se marre. Mais grosso modo, c'est un petit peu chacun son tour contre Strife, et voilà. En fait, pour résumer, c'est ça. C'est Deadpool, ensuite c'est Cable, ensuite c'est machin qui essaye de porter un coup mortel à Strife. Et puis grosso modo, voilà, il se passe pas grand chose dans ces deux épisodes. Vraiment une grosse baisse de tension, l'histoire n'avance pas, on sait juste que bah ils ont moins en moins de temps.
Bah au final, la dernière image, le compteur arrive à zéro.
Voilà. Donc que va-t-il se passer? Ce sera peut-être plus intéressant le mois prochain.
Bon, c'est alors moi je donne mes pronostics, je ne connais pas la fin, hein. Je ne connais pas la fin du tout, mais ouais. Je donne mes pronostics. Ils vont repartir dans le présent, et ça va se finir entre Apocalypse versus Strife.
Ouais, certainement, d'autant que alors il y en aura
pendant que Cable et Hope s'échappent.
Ouais, et il y en a peut-être qui vont peut-être rester coincés du coup dans cette dimension, peut-être qu'Archangel restera ça m'étonnerait mais bon, qui resterait coincé pendant un petit moment, je ne sais pas.
Les seuls persos totalement dispensables, ce sont Elixir et Vanisher. Donc s'il y en a qui doivent rester coincés, ce sera eux. Mais j'y crois pas.
Vanisher, ils sont allés le chercher pourquoi déjà à la base?
Ben, parce que il peut se téléporter.
Ouais, donc il en est quand même utile, et puis il y a Elixir qui aide bien dès qu'il y a des blessés, enfin voilà quoi, ça fait des années que dès qu'il y a quelqu'un qui se tord le doigt, ah bah tiens, on va demander à Elixir de le soigner. Donc en fait, c'est son seul rôle depuis quelques années.
De toute façon, sachant que Messiah War est censé se passer avant Utopia, il suffit de regarder les personnages qu'on voit dans Utopia de X-Force, et voilà, on saura qui revient.
Ah, j'ai pas regardé du tout, d'accord, ouais, ok. Bah, enfin voilà, mais en tout cas...
Même si techniquement, ils sont parus après. Hein.
Mais Messiah War, globalement, m'intéresse beaucoup plus qu'Utopia, mais là, voilà, quoi, grosse baisse de régime, et à voir comment ça se termine le mois prochain.
Ouais, c'est dernière partie dans X-Force numéro 16, c'est-à-dire qu'on aura le mois prochain.
Et la suite du triptyque, ce sera Second Coming en 2011.
Et ben, on verra ce que ça va donner.
Voilà, exactement.
La suite, c'est Dark Wolverine numéro 78, nouvel arc qui s'appelle My Hero, scénario toujours de Daniel Way et Marjorie Liu, au dessin, on a Stephen Segovia.
Et ben alors là, je vais peut-être commencer juste pour te dire que c'est assez surprenant, mais je me suis un peu embêté à la lecture de cet épisode.
Bah, moi aussi.
Ah, bon d'accord, bah, tant mieux. Bon. Parce que grosso modo, le scénario est cousu de fil blanc.
Bah, c'est sympa, mais voilà, disons que...
On comprend vite ce qui se passe, quoi, de toute façon.
Ben, comme voilà,
grosso modo,
voilà. Bah ben, vas-y, je te laisse.
Alors grosso modo, Wolverine noir, enfin c'est-à-dire Deacon, charcute totalement quelqu'un en face d'une pauvre vieille, enfin bon, pour lui venir en aide à la base, hein, je pense.
Mm-hmm.
Mais toujours est-il qu'il est filmé par des caméras de... Non, même pas, c'est un mec qui passe et qui arrive à le filmer avec son appareil photo numérique, je sais pas. Et ensuite, il met la vidéo sur Internet et du coup, le truc est vu par des millions et des millions de personnes.
En fait, le Norman avait récupéré cette vidéo, mais cette vidéo lui a échappé.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à piquer la vidéo et à la faire balancer sur YouTube. Or, on comprend tout de suite que c'est Daken au bout de 5 pages qui lui a piqué la vidéo.
Ouais, ouais. On comprend qui c'est, et puis quoi. Surtout, ensuite, Norman Osborn met un espèce de stratagème en place pour redorer le blason de Daken. En fait, il fait évader une espèce d'équipe de d'ex-super-vilains de seconde zone,
dont
parmi lesquels Moses Magnum. Ouais.
Le plus connu de tous.
Voilà, ouais, d'ailleurs, c'est son procès. En fait, il fait évader avec d'autres super-vilains durant son procès. Et il fait passer ça pour une évasion...
Oui,
pour une évasion.
Puisqu'il veut leur filer un job.
Exactement, ouais. Ouais, en fait, il arrive à les manipuler en leur disant qu'il va leur fournir un job, etc., etc. Et bien sûr, ensuite, il lance Daken à leur poursuite pour que Daken les arrête avec les caméras de télé présentes sur place, etc. Et pour qu'on voit bien que bah, c'est un héros et qu'on oublie, au fait, un petit peu ce dérapage, quoi.
Ouais.
Donc, franchement, le scénario est cousu de fil blanc et j'ai été surpris, au fait, de la crédulité des super vilains que Osborn aide, puisque bah d'ailleurs il commence à douter, quoi, il commence à se dire tiens, peut-être que il y a un coup fourré derrière ça, quoi, puisque ils sont assez surpris que Norman Osborn ait besoin d'eux, quoi, en fait.
Ouais, non, mais je sais pas, autant je m'attendais à rien cette série sur le premier arc, ça m'a super surpris, autant là peut-être que je m'attendais à trop et que du coup je suis un peu déçu. On verra la suite de l'arc, hein.
Voilà, non, enfin, ce qui est super marrant, en fait, ce qui était super marrant, c'est surtout de voir Daken face aux autres membres des Dark Avengers, et là, ils apparaissent pas du tout, là, on voit juste Daken et Norman Osborn, en l'occurrence.
Bah, on voit passer Miss Marvel, qui vient offrir un bouquin,
ah oui,
un bouquin
vrai.
Qu'il a au début, un bouquin où on voit un couple qui baise, hein, tout simplement, et qui d'ailleurs m'a fait rire, parce que le nom c'est TLC, donc pour les fans de catch, c'est assez drôle.
Mais ouais, bah, en français, je pense que c'était pas traduit comme ça, du coup.
Bah, je sais pas, il y avait juste les initiales, en fait. Il y avait juste TLC, mais...
j'ai pas marqué.
Donc, avec une image de cul, on imagine tout de suite TLC, ce que ça peut donner. Pour ceux qui savent pas, TLC veut dire Table, Ladders and Chairs.
Voilà.
Je vous laisse faire la traduction, vous-même. Voilà, donc... À part ça, enfin, je veux dire, moi, l'épisode, pas emmené, quoi.
Ouais, bof, bof. Voilà. On va voir pour la suite.
Ouais.
X-Factor.
Ouais, le dernier épisode, en revanche, lui, est nettement meilleur. X-Factor volume 3, numéro 43. Scénario Peter David, dessin Marco Santucci et Valentine Delandro. À l'ancrage, Marco Santucci, Pat Davidson, Patrick Piazzalunga et Craig Young. Bien, alors là, c'est pareil, encore énormément de choses. L'enquête que Longshot faisait... Enfin, l'enquête. La protection que Longshot faisait... Pas de réponse sur pourquoi la meuf s'est fait tuer, puis finalement il l'a sauvée.
Ouais.
Mois dernier. Dans le résumé américain, il était marqué qu'on allait avoir des réponses, mais finalement on les a pas.
Non, on en a pas, mais bon. Enfin, voilà quoi. Ça continue à être très drôle, en tout cas, cette intrigue.
Voilà. On a de son côté, Madrox qui est dans le futur et qui rencontre Cyclope Cyborg.
Ah oui, et puis il y a surtout la scène, la plus grande scène de tout le numéro, c'est... Bon, est-ce qu'on le dit ou pas ?
De quoi ? L'accolade ou l'embrassade ?
Le rapprochement clair et net entre Leila Miller et puis Madrox, quand même.
Oui, on peut le dire. On peut le dire, tout ça. De toute façon, c'est pas un souci.
C'est vraiment le... Voilà, quoi. Là, maintenant, c'est...
Pour moi, la scène peut-être... une des scènes les plus drôles, c'est quand même l'accolade entre Madrox et Cyclope qui... Madrox,
ah oui.
qui le prend dans ses bras dans une scène un petit peu...
Oui, il lui dit « Pardon, ça faisait peut-être un peu gay », et puis Cyclope qui lui dit « Non, c'est pas grave, c'est pas grave ».
Voilà, avec une vieille case au milieu, sans dialogue.
Oui. Voilà, et puis en plus, après, lui balance que s'il a perdu un bras, c'est de sa faute.
Ouais.
Je sais pas trop pourquoi, mais...
Voilà, on en saura plus, puisque finalement, Cyclope l'a fait venir pour l'engager pour un boulot, découvrir ce qui est arrivé à une fille qui a disparu pendant 2 secondes.
Voilà.
De leurs moniteurs. Moniteurs qui n'ont jamais de problème.
Voilà, exactement.
Voilà.
Donc, voilà, quoi, une bonne intrigue dans le futur. Et puis...
La dernière partie, ouais.
Oui, il y a Guido. Alors, je sais pas si tu considères que c'est la dernière partie, puisqu'au fait, il y a quand même quatre factions, quoi, on va dire. Il y a Guido et l'autre...
Richter.
Richter. Ah oui, Guido et Rictor qui vont à la recherche du Madrox prêtre. Ah oui, puis qui sont en fait comment dire attaqué par un vieux de la vieille. Hein.
Ouais, retour de quelqu'un, encore avec ce fameux truc Cortex là, qui continue d'attaquer les gens, parce que c'était déjà ce que disait la personne qui avait attaqué Madrox dans l'église, qui a attaqué aussi, qui avait pris possession de la mère de la personne qui était censée protéger Longshot. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc là qui prend en tout cas qui peut prendre possession des gens et qui leur fait répéter Cortex sans fin?
Ouais. Et donc bah voilà, c'est l'apparition, enfin la réapparition d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps.
Ouais, pareil,
Et pendant ce
on
temps-là,
dira pas.
il y a Sirène et Monet qui sont à l'hôpital.
Moi je les ai considérés ensemble, puisque finalement elles rejoignent Longshot et puis comment il
Ah oui, c'est
s'appelle
vrai, oui.
et Darwin qui sont déjà au chevet de la mère
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
de la fille à protéger.
Bon, on sent que c'est toujours tendu hein, entre Sirène et Madrox. Alors, je sais pas si, enfin voilà quoi. Puis surtout maintenant que Madrox entame une autre relation.
Mais ça risque de poser des problèmes.
Voilà. Donc franchement, c'est toujours super passionnant. Il y a plein d'intrigues qui se nouent. C'est super drôle, surtout.
Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est la référence à Star Trek. Alors, je sais pas si elle a été gardée en VF.
Je sais plus, mais dans le futur.
Non, dans le présent, quand Monette essaye de scanner l'esprit de la mère, et justement, elle lui demande, la fille qui était censée être protégée demande ce qu'elle fait, et on lui explique qu'elle fouille par télépathie les souvenirs pour savoir ce qui s'est passé. Et justement, la fille répond un peu comme la fusion mentale des Vulcains, le mind meld, quoi. Donc c'est assez drôle puisque Peter David a fait une référence à Star Trek, un univers qu'il connaît bien puisqu'il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans dans l'univers de Star Trek.
Ah, je l'ai pas relevé dans la version française, alors je sais pas s'ils ont gardé exactement cette référence. Bon, à voir. Donc, mais en tout cas, bon, bah, c'est toujours génial. Et j'ai qu'une crainte, c'est que effectivement, ils le virent au profit d'Astonishing X-Men dans quelques mois dans le magazine français, quoi.
Ben, on verra. En tout cas, très très bon épisode une fois de plus et ça continue vraiment très très bien. Ok, c'est tout pour le kiosque cette quinzaine. On retourne sur la librairie et c'est Daredevil Noir. Donc c'est la suite, enfin la suite. Un nouvel opus dans cette gamme noire, cette fois-ci donc avec Daredevil. Toujours en quatre parties comme mini-série. Au scénario, on trouve cette fois-ci Alexander Irwin, que je ne connaissais pas du tout.
Moi non plus.
Et au dessin, Tom Cocker, pareil que je ne connaissais pas et dont j'ai franchement apprécié le style.
Bah oui, très adapté en tout cas à l'univers de Daredevil.
C'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière et ça va parfaitement. D'ailleurs, mention spéciale, je trouve, au design du costume. J'aime beaucoup son costume, un espèce de mélange entre le costume classique et le costume qu'il avait à l'époque où il avait changé de costume dans les années 90 après, je crois que c'était Renaissance en français, l'arc où il avait changé de costume.
Ouais, le truc où on le voyait chuter d'un immeuble là,
Ouais, c'est ça,
faire le
ouais.
saut de l'ange là.
Qui était paru dans des top BD spéciaux à l'époque.
Ouais, et d'ailleurs j'ai essayé de les lire et c'était bizarre, on va dire,
Avec
comme lecture.
C'était Scott McDaniel, je crois, au dessin.
Et c'était Chichester ou je sais pas
Ouais,
quoi au
Doug
scénario.
Chichester au scénario,
Ouais. Une période assez sombre quand même.
ouais.
Mais non, mais là les dessins m'ont fait penser moi surtout à du Michael Lark mais ancré différemment quoi.
Ah ouais, effectivement, ouais.
Il y a vraiment le côté, on retrouvait, j'ai vraiment retrouvé totalement le côté Daredevil, et peut-être même un peu trop, en fait. Ce sera mon essentiel critique sur ce bouquin, mais je te laisse résumer déjà l'intrigue.
Oui, bah l'intrigue, c'est le problème, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que, enfin, c'est le problème. C'est un des problèmes de la série, c'est que c'est vraiment très très proche de l'univers de Daredevil classique, quoi.
Voilà.
C'est vraiment
Alors.
vraiment ça, quoi. La
Oui, voilà,
différence
ça.
se situe que c'est dans les années 30 et que bien sûr les écoles d'avocats, tout le monde ne pouvait pas y aller et donc Matt Murdock étant l'enfant d'un boxeur déchu. Une fois encore, comme dans l'univers classique, avec son pote Foggy, il travaille en tant que détective privé. Voilà.
Voilà.
C'est la
Alors,
différence.
autant, tu vois, les X-Men, on peinait même à les reconnaître, parce qu'ils étaient vraiment totalement hors contexte, enfin ça changeait vraiment. Spider-Man, il y avait des transpositions intéressantes, tu vois, c'était vraiment adapté. Wolverine, on retrouvait pas mal d'éléments, mais encore une fois, c'était changé, ils étaient aussi une agence de détective privé. Et ben là, c'est vraiment peut-être un petit peu trop transposé à l'identique, quoi. On retrouve vraiment... En fait, Daredevil, c'est vraiment le personnage qui s'adaptait le plus à cet aspect polar. Donc, le piège, c'était effectivement de pas tomber dans une adaptation trop semblable à ce que c'est déjà.
Ben là c'est le cas malheureusement.
Ben là malheureusement ouais c'est le cas, donc pas trop de surprises quoi. On n'est pas là à se dire ah tiens.
Ça n'empêche pas quand même que c'est une très bonne histoire. Enfin moi en tout cas j'ai très vraiment bonne pris histoire mon pied de avec
ça. En fait voilà c'est ça, c'est une très bonne histoire de Daredevil, mais ses limites, on quelquefois on oublie même qu'on lit une histoire de la gamme noire. On a l'impression de lire une histoire de Daredevil classique. Le seul truc qui nous le rappelle c'est effectivement les décors,
les années 30,
les costumes. Ouais. Voilà.
Mais ouais c'est, ça pourrait être sous le label Marvel Knights. Pas de problème.
Voilà, ça pourrait être sous le label Marvel Knights, qui n'existe plus, je crois, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est la collection Max, maintenant, je crois.
Ouais, voilà. Mais par contre, enfin, tu vois, quand il est dans Hell's Kitchen, par exemple, on voit pas la différence entre le Daredevil de maintenant, et le Daredevil de cette mini, quoi.
Bah, il y a la différence de costume, quoi.
Costume, le ouais. Costume. Et encore, avec les jeux d'ombre et de lumière, comme tu disais, quelquefois, on l'aperçoit à peine, donc on voit pas trop la différence, quoi. Bon alors, je te laisse raconter un petit peu.
Ce qui m'a gêné un petit peu aussi, c'est le fait qu'il ait, je trouve, un peu trop de pouvoir. Enfin, ses pouvoirs sont trop puissants pour quelqu'un qui n'a pas eu de radiation, qui lui ont brûlé les yeux, qui n'ont pas développé des sens, etc. Il a vraiment développé ses sens à l'extrême, alors que c'est censé être un simple mortel, un peu comme Wolverine dans Wolverine Noir, justement. Et pour moi, ses pouvoirs, entre guillemets, sont un peu trop puissants. Il n'y a aucune explication mystique ou quoi que ce soit à ses pouvoirs d'ailleurs.
Oui, mais ils sont un petit peu trop semblables encore une fois à ce qu'il est dans le comics Marvel classique. Donc voilà quoi, tu vois, il y a pas de. Moi je m'attendais peut-être à une explication un petit peu en plus, et au fait elle n'arrive pas cette explication.
Il n'y a rien quoi. Y a rien. Et puis bon, c'est vrai que c'est très classique, hein, on voit. Bah ça commence en fait avec une discussion entre Daredevil et Wilson Fisk, qui est ni plus ni moins qu'un caïd, un peu moins gros, peut-être.
Oui, non, enfin, mais par contre, encore une fois, c'est quasiment le même personnage, quoi. Il a quasiment la même tête.
Et puis, il lui raconte, en fait, c'est le moment de la confrontation finale. Et puis, tout se passe sous forme de flashback, où il raconte l'histoire tour à tour. Bon, moi, j'ai bien aimé l'histoire. Bon, l'histoire, c'est simplement qu'une femme nommée Elisa vient les voir. Matt tombe amoureux en la voyant. C'est ni plus ni moins qu'une Electra, hein.
Oui, c'est une espèce d'Electra et le twist final. Alors je sais pas toi, mais moi je l'ai vu arriver. Enfin, le twist final. C'est pas le twist vraiment à la fin, quoi. Mais
la révélation. Ouais,
la révélation.
Je l'ai pas senti tout de suite, mais assez ouais au milieu du deuxième numéro, je m'en doutais un peu, quoi.
Bon, voilà, parce que le problème c'est que on va pas dire qui c'est.
Non, on va pas dire qui c'est.
Mais en gros, Daredevil recherche Bullseye.
Écrit différemment d'ailleurs, hein, en tout cas en version anglaise.
Ah ouais?
C'est Bulls, plus loin,
Eye. Ah oui, d'accord. Ok, ils ont
c'est
tiré.
Pas en un mot. Ah non, même pas de tirer un espace, tu vois, c'est vraiment l'œil du taureau, quoi. Voilà.
Oui, et donc, il recherche Bullseye, et comme on le voit pas, en fait, c'est
vrai ce
qu'on le voit pas, Bullseye, on le voit jamais, du coup, le twist est un peu éventé, quoi. Je me doutais que c'était quelqu'un qu'on avait déjà vu. Donc voilà.
Donc bon, honnêtement, hein, c'est une bonne histoire de Daredevil.
Vraiment. Ah oui, non mais l'ambiance est vraiment bonne, les dessins sont vraiment bons.
Il y a aucune surprise.
Vraiment dedans.
Il y a aucune surprise.
Mais voilà, c'est trop classique, trop classique.
C'est-à-dire que on croise les personnages réguliers de l'univers de Daredevil. Peut-être pas Ben Urich, c'est peut-être le seul qui manque. Mais vu qu'on l'avait vu dans Spider-Man.
Bah justement, ils auraient pu faire pour vraiment ancrer cet univers noir. Enfin, vraiment en faire quelque chose de cohérent, ils auraient pu faire apparaître Ben Urich et faire le lien aussi. Ouais. On aurait pu avoir des références. Je me demande pourquoi ils ont pas encore fait des références aux autres séries. Peut-être qu'ils savaient pas que ça allait marcher à ce point-là. Mais
la seule référence, c'est Logan Wolverine, quoi, passer dans X-Men et qui a eu sa propre série noire.
Ah oui, effectivement. Ouais, mais enfin bon. Parce que Wolverine, c'est un personnage un petit peu ancré dans la mythologie des X-Men. Donc, mais là, tu vois, ça aurait été sympa de voir par exemple un journal avec le mystérieux araignée. Enfin, tu vois, un truc comme ça, quoi. Une référence à par exemple à Spider-Man Noir ou bien alors Ben Urich qui passe, comme tu dis, et qui parle un petit peu à Matt. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Alors peut-être peut-être que ce sera comme ça dans les futurs épisodes des futures séries de la gamme noire, mais ce serait intéressant. En tout cas, c'est une gamme voilà qui continue son petit bonhomme de chemin, qui est toujours intéressante, qui est pas chère, puisque bon...
10 euros, ouais, c'est pas cher.
Ça va, 10 euros pour un...
C'est
un
vraiment
comme ça, ça
c'est
va.
une bonne histoire, donc ça vaut le coup. Après, tout dépend. Si vous n'aimez pas Daredevil, c'est pas la peine. Si vous voulez être surpris, c'est pas la peine non plus. Vous ne le serez pas. Donc voilà.
Mais bon, voilà, quoi. Si vous êtes fan du personnage, si vous aimez bien cette ambiance aussi, puis les dessins qui sont quand même pas mal du tout. Hein, moi, franchement, si vous êtes fan de Michael Lark, je pense que vous allez aimer ça. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est peut-être le plus décevant entre guillemets de la gamme noire jusqu'à maintenant.
En termes de changement, ouais. Après, moi, pour moi, le plus mauvais de ceux que j'ai lus, en tout cas à mon goût, ça
Ah
reste
oui, c'est vrai.
X-Men.
Ouais.
Mais moi, j'ai bien pris mon pied avec celui-ci, hein, comme je disais tout à l'heure. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était quand même super inspiré des runs récents de Bendis et de Brubaker au niveau de la, comment dire,
La noirceur, la mise en scène,
ouais, enfin de la façon de faire, en fait,
narration.
des agissements de Daredevil et sa façon d'être assez brutale comme ça, comme il l'est. Pour moi,
Ah mais
c'est assez
totalement,
inspiré de ça.
totalement. C'est pour ça que je te dis, c'est voilà le seul reproche qu'on peut faire et il est quand même majeur, c'est que c'est un peu trop proche de la
Voilà.
version classique, actuelle en fait, actuelle, pas classique, actuelle.
Mais ça reste bien. Donc, si on aime Daredevil, en tout cas. Ok, c'est tout pour cette quinzaine. Avant de se quitter, on avait eu une petite question dans les commentaires à laquelle on va répondre ici, plutôt que dans les commentaires, parce que ça s'adresse plus au podcast. On a vu Erk qui nous demandait si on pourrait un jour faire un spécial sur l'univers Wildstorm. Et l'univers Wildstorm type Wildcats, Wetworks, enfin ce genre de séries, et non les séries licenciées, comme il nous citait en exemple Gears of War, mais on a aussi d'autres séries adaptées de jeux vidéo qui sont sorties chez Wildstorm en mini-série. On a même des mini-séries sur Supernatural, par exemple, la série télévisée. Enfin bon. Alors, c'est pas. Enfin, pour le moment, c'est pas au programme, parce qu'on a déjà bouclé en termes d'idées nos spéciaux jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Donc ça pourrait pas être avant ça, mais pourquoi pas. Un spécial sur l'univers Wildstorm pourrait tout à fait être envisageable. C'est une bonne idée qu'on note. Mais donc ouais, vaut mieux compter peut-être début de l'année prochaine.
Et oui, puis faut me laisser le temps aussi d'en lire un petit peu, parce que contrairement à toi Steve, je n'ai pas lu énormément de choses. J'ai lu DA Authority, mais il m'en reste plein à lire. Et donc voilà, donc faut que je
Tu
me
connais pas
rattrape un petit peu
les
là-dessus.
séries type Stormwatch, Wildcats?
Oui, surtout qu'il paraît que Stormwatch, c'est un petit peu l'introduction à Authority, d'après ce
Ah
que j'ai entendu.
bah oui, c'est ce qui se passe avant en fait. Warren
D'accord.
Ellis avait repris le titre et avait arrêté Stormwatch et ensuite lancé Authority.
Voilà. Ce qui a vraiment marché, au fait.
Et qui a redéfini les équipes de comics et de super-héros pour tout ce qu'on voit maintenant d'ailleurs.
Malheureusement. Enfin, ça dépend. Enfin voilà, le débat sera lancé peut-être ce jour-là d'ailleurs.
D'ailleurs, ouais, pourquoi pas.
Autre question?
Non, c'était tout pour cette fois-ci. Donc voilà, donc un spécial sur l'univers Wildstorm, oui, mais pas pour tout de suite, vu qu'on a déjà tout bouclé en termes d'idées de spéciaux et que tout est déjà prêt pour ouais, jusqu'à pendant au moins 6 mois. Non, peut-être pas 6 mois, remarque, on est déjà en juin, donc jusqu'à octobre-novembre. Donc ouais. Peut-être pas pour décembre, peut-être pour janvier. Voilà. Cette fois-ci, donc c'est la fin de notre 33e numéro. On se retrouve comme d'habitude d'ici une quinzaine de jours. Si vous avez des réactions par rapport au podcast, par rapport à des thèmes, ne serait-ce que des thèmes abordés dans les news, hein, comme le Comic-Con, comme les comics digitaux, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à podcast@comiccity.fr. Précisez-nous juste, comme je le dis toujours, si vous voulez plutôt une réponse dans Comic City ou dans Comics Weekly, pour qu'on puisse y répondre facilement à l'endroit que vous voulez. Vous pouvez retrouver les épisodes sur iTunes, comme toujours, le groupe Facebook, le Twitter, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, hein, comme dirait Steve, voilà, n'importe quelle question, on est très ouvert, on vous répondra. De toute façon, on vous répondra. D'une manière ou d'une autre, on vous répondra, voyez.
Que
Donc,
ce soit
allez-y.
dans les commentaires, soit dans le podcast en lui-même. De toute
Voilà.
façon, je laisserai un message, vous le verrez, enfin vous l'aurez sûrement vu d'ici là. Je laisse un message quand on répond à une question des coms dans le podcast. Je laisse un message pour dire on répond dans tel podcast. Voilà. Donc, bah, on se retrouve d'ici 15 jours. Et puis là,
Et
d'ici le.
ou même moins d'ailleurs pour
Ou
ceux
même
qui
moins pour
écoutent.
ceux qui écoutent, qui, ouais, voilà, weekly. Et puis le spécial qui devrait arriver bientôt. Bientôt.
Ok.
Pas de date encore, aux alentours du 25, peut-être, quelque chose comme ça. Ça va dépendre des disponibilités pour l'enregistrer. Spécial qui sera sur Starman, le premier omnibus. Voilà. Donc, à dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous bien.
Ciao.